I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et à toutes. On a été éliminés de l'euro, mais vous vous en foutez parce que vous, ce que vous attendez, c'est la CAN. Eh ben, vous avez bien raison. Détendez-vous, vous êtes dans le chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Salut à toutes et à tous, vous êtes toujours dans le chip. Je m'appelle François Oulac et je suis encore une fois accompagné de mon équipe habituelle Mélanie Wanga.
Bonjour.
Bonjour, 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 bonsoir. Et de Kevin Donat.
Skululu.
Le seul, l'unique. Alors pour cet épisode, on vous a préparé un truc un petit peu spécial. On vous a demandé de nous poser des tas de questions, toutes les questions qui pouvaient vous venir à l'esprit, qu'elles concernent l'émission, qu'elles nous concernent nous personnellement, qu'elles concernent la pop culture, l'identité noire, etc., la politique, tout ce que vous voulez vraiment en mode shoot. Et vous avez été extrêmement nombreux, nombreuses à nous envoyer des questions. Donc déjà un immense merci à tout le monde, à la communauté, parce que franchement ça fait plaisir. On s'attendait pas à avoir.
Ouais. Ouais. Je me disais il va falloir les relancer. Non, on a eu 70 questions.
Même je dirais même qu'on a plus de questions que ce qu'on pourra peut-être répondre dans l'émission, parce qu'il y a quelques doublons. Et donc voilà, on répondra pas à toutes les questions aujourd'hui, mais sachez en tout cas que même si on vous a pas répondu dans l'émission, ben on vous répondra plus tard en commentaire ou en DM par rapport au réseau.
Yes.
Voilà, donc avant de faire ça, je vais quand même vous faire le petit trashou iconique de rigueur, et après on se rentre dans les questions, ok?
Yes. Chou,
ça vous va?
C'est parti.
Let's go. Alors, est-ce que vous avez vu cette vidéo qui est devenue virale fin juin, qui a été partagée sur Instagram, du fameux granité bordelais? Ça vous dit quelque
oui,
chose ou pas?
Oui, parce que tu m'as dit, tiens, regarde ça, c'est un scandale. Mais excuse-moi, je spoil.
Il y a des gens qui nous ont envoyé le truc en disant, très bien que le chip, ils en parlent. Ouais. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été publiée par une Instagrammeuse bordelaise, où on voit un restaurateur, un glacier, qui a un bloc de glace avec une spatule, vous savez, et puis il gratte du coup son bloc de glace pour récupérer de la glace pilée, et il l'agrémente de différents sirops, que ce soit grenadine, abricot, tout ce que vous voulez, et il sert ça en fait. Et la personne qui filme donc ne connaît pas ce procédé, lui demande un peu ce que c'est, est-ce que c'est breveté, est-ce que c'est, enfin d'où ça vient, et le gars lui dit bah voilà, je sais pas d'où ça vient, mais on fait ça, etc. Et donc elle a intitulé sa vidéo, et c'est là le problème, elle a intitulé sa vidéo le granité bordelais.
Appropriation culturelle.
Le problème, c'est que ce que cette jeune femme appelle le granité bordelais, en fait, ça a déjà un nom, et c'est une invention qui est antillaise et qui s'appelle le snowball.
Snowball.
Snowball. Ça vient de l'anglais snowball, en fait.
Snowball. Boule de neige. Snowball. Snowball.
Voilà.
D'accord.
Ça vient du créole.
Donc
snowball.
On reste dans le champ lexical de la glace.
Tout à fait, tout à fait. Le snowball, donc, qui est une glace, voilà, artisanale, antillaise, qu'on trouve, voilà, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion aussi, j'imagine, en Guyane. Généralement, c'est au bord des plages qu'on trouve, et qui vient généralement avec trois différents parfums, grenadine, menthe, et puis, sirop d'orgeat pour les gens qui aiment les choses dégueulasses. Évidemment.
Pas de goût. Qui n'aiment pas leur vie.
Franchement, c'est un peu écœurant, faut le dire. Donc forcément, au moment où la vidéo du granité bordelais est devenue virale, il y a eu des tas de commentaires, de repartages de personnes antillaises qui disaient « Ouais, arrêtez de vous approprier, en fait, la culture de la personne. »
971-972-973
aussi, hein. Et donc, de gens qui criaient à l'appropriation culturelle. Moi, évidemment, je suis d'accord avec toutes ces allégations, et ça m'a fait penser à un truc qui s'appelle le Columbusing. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, donc qui est un terme qui est né sur Internet, qui vient de Christophe Colomb, parce que ouais. Vous savez, on dit que Christophe Colomb a découvert
l'Amérique.
L'Amérique, alors que l'Amérique était habitée, peublée, etc. Et donc en fait, le Columbusing, c'est un terme qui vient d'Internet et qui désigne le fait que pour les Blancs, en fait, rien n'existe avant qu'ils ne l'aient découvert eux-mêmes, ou qu'une personne blanche ait découvert, enfin du moins une personne qui est dans leur radar, on va dire, l'ait découvert et en ait parlé. Tu te souviens, Mélanie, je sais pas, il y a 2-3 ans, il y avait une star, je sais plus qui s'était fait un truc qui ressemblait à des bandes Two Notes, Et il y avait un magazine féminin qui avait dit, oui, le nouveau style, it's the hot new thing, it's the hot new shit, de je sais plus qui.
Je me rappelle des tresses de Kim Kardashian qui avaient été brandées comme les nouvelles tresses de la saison. Mais ouais, les Ventoux Notes, je sais plus qui l'avait fait.
Je sais plus non plus là, je te dis comme ça de mémoire.
Il y a l'histoire de Bouderec et de ses tresses, actrice blanche 70-80, qui se fait des, je crois que c'est des tresses et... toute l'Amérique blanche. Oh mon Dieu, cette nouvelle coiffure incroyable!
Nous ne connaissons pas du tout, ça n'existait pas du tout avant! Si vous vous souvenez aussi, en 2013, il y a beaucoup de personnes blanches qui ont découvert le twerk avec Miley Cyrus. Alors que le twerk, ça
existe. Qui ne savait pas twerker, d'ailleurs.
Qui ne savait pas twerker, mais.
C'est ça qui est ouf, parce qu'ils ont découvert le twerk, il y a eu tout un truc autour de ça, et en fait, elle twerkait pas, elle maîtrisait pas le mouvement. En fait.
Moi, je pense que c'est pas une question de mouvement, c'est qu'elle a pas ce qu'il faut.
Le truc dans les genoux et
c'est
tout.
C'est une question
là.
De matériel, tu veux dire, elle a pas les.
Je pense qu'il faut. On va pas commencer à parler de booty maintenant, mais j'ai des choses à dire. En tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, les restaurateurs donc bordelais se sont quand même défendus de la polémique parce qu'il y a eu un article dans Outre-mer Première, etc. Vous voyez, c'est
sérieux.
Ouais, c'est allé loin sur Internet, le buzz, etc.
Monté en épingle.
Et ils ont dit bon voilà, on sait que le Cinnobol existe aux Antilles, mais bon, voilà, la glace à l'eau, c'est un truc qui existe partout, c'est un truc qui existe aussi en Amérique latine, c'est un truc qui existe aussi en Asie.
Il n'y a
voilà.
pas que vous qu'on a volé.
Nous, on appelle ça le granité bordelais, parce qu'un granité, c'est une glace à l'eau, et enfin, la personne qui a appelé la vidéo, enfin, qui a fait la vidéo, qui a appelé ça granité bordelais, c'est parce que bon, ben, c'est un granité, c'est fait à Bordeaux, bon, ben, granité bordelais, il n'y avait aucune volonté.
Juste petite question, est-ce que eux, ils ont un nom pour ce produit-là? Parce que tu disais que c'est pas eux-mêmes qui l'ont appelé granité bordelais.
Je me demande si en fait, elle n'a pas demandé au restaurateur comment ça s'appelait et qu'ensuite elle a pas nommé le granité. Donc tout ça pour dire que les restaurateurs ils se sont défendus en disant bon écoutez les gars voilà on n'avait pas de mauvaises intentions ou quoi que ce soit et voilà on appelle ça comme ça granité bordelais au calme quoi. Vous avez pas inventé la glace à l'eau les Antillais.
Est-ce que vous avez inventé la glace même
je sais pas.
L'eau c'est vous qui avez inventé ça.
Et donc forcément pour moi ici les restaurateurs ils ont fait deux erreurs de compréhension en fait par rapport à la question de l'appropriation culturelle. La première, en fait, c'est qu'ils ont pensé que l'appropriation culturelle était quelque chose qui avait à voir avec l'intention, avec vraiment
Si tu le fais exprès, c'est méchant.
Et si tu l'as pas fait exprès ou si tu l'as fait par ignorance, etc., ça passe. Alors qu'en fait, l'intention et l'effet sont deux choses à dissocier, donc ça a rien à voir avec l'intention. Et surtout, leur deuxième erreur, c'est aussi de sous-estimer la puissance et la prégnance de la blanchité dans les espaces culturels, en fait. C'est-à-dire que pour moi, en fait, lorsque par exemple ces personnes appellent le Cinnobol granité bordelais, en fait, moi, en France, j'ai jamais vu personne qui n'ait pas foutu les pieds aux Antilles et qui sache que c'est que le Cinnobol. Je connaissais pas le Cinnobol, par exemple. Tu vois, ça veut dire que si demain ça s'appelle granité bordelais, si demain on vous montre un Cinnobol et qu'on vous dit c'est un granité bordelais, la part des gens ici en Hexagone, ils vont dire ok, c'est un granité bordelais.
J'accepte,
bien sûr. Bah pourquoi on contesterait? Et ensuite il y a un autre restaurateur qui va dire ben tiens, moi aussi je vais faire ça, c'est l'été, c'est la période. Allez hop, je fais les granités bordelais.
Et puis dire que le granité bordelais va effacer le Cinnobol.
Exactement, en fait. Et donc c'est pas du tout une question d'intention ou quoi que ce soit, c'est juste une question de balance de la visibilité, de balance des pouvoirs, comme s'il y avait un bras de fer et que clairement le bras de fer il est un peu en notre défaveur aux Antillais, qui fait que très 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 vite ça va devenir le granité bordelais si on fait pas gaffe en fait. Et c'est des choses qui se sont beaucoup beaucoup vues très très souvent dans la culture fooding, vous savez, en Occident. Donc faut faire attention à ça.
Est-ce que le bokit va devenir le sandwich normand?
Bien sûr que le bokit peut devenir le sandwich normand, ça peut aller très vite.
Il y avait eu une polémique l'année dernière, c'était plus américain, mais avec une fille super connue qui faisait une rubrique dans le New York Times et elle renommait des trucs en The. Elle disait The Stew, alors qu'en fait c'était des trucs clairement inspirés de culture indienne et tout. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, ils ont fait bah t'es gentil, mais en vrai,
ça a un nom déjà.
Ça existe déjà en fait ton truc, donc arrête de le renommer comme si c'était.
Le problème, c'est que comme elle a plus de force dans ces espaces-là, on n'est pas à l'abri de ça quoi. Tout ça pour dire que voilà, moi je suis contre l'appropriation culturelle, tous ces trucs-là, et je pense que en fait là où c'est pour ça que les gens ont eu cette réponse un peu épidermique en fait. Je pense que les Antillais comprennent consciemment ou inconsciemment que ça peut aller très très vite, comme si on était une sorte d'espèce menacée culturellement et qu'il faut protéger ce genre de choses-là. Et si aujourd'hui tu commences déjà à piller le patrimoine culturel antillais et à dire le Cinnobol c'est un granité bordelais, ça peut aller à une porte très dangereuse. Demain on va commencer à nous faire croire que Rihanna, par exemple, elle est pas née à Chelcher en Martinique. Après, on va commencer à vouloir nous faire gober que Omar Sy, il est pas originaire de Basse-Terre en Guadeloupe.
C'est la vérité.
C'est la vérité. Après, on va nous faire croire que Kylian Mbappé, il est pas du Morne Rouge. Tu vois, donc ça peut aller vraiment, ça peut aller vraiment très 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 vite.
On t'aime, Kylian.
C'est une pente glissante.
C'est ça.
Donc, sauf quand il rate le tir au but là, il est camerounais algérien dans ce cas-là. Donc bref, voilà.
Le joueur d'origine camerounaise.
Tout ce que je viens de dire est totalement véridique. Ne vérifiez pas les fiches Wikipédia de Rihanna et des autres. C'est des conneries, c'est des mensonges. Et évidemment, c'est un trash pour le granité bordelais.
Très bien.
Très bien, très bien. Vous n'avez pas d'autres questions. On passe à propos de questions, justement.
On passe aux questions.
Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup divisé les questions en catégories, parce qu'en fait, il y avait plein de questions qui se recoupaient et qui a en fait renvoyé.
Il y a une question qui est beaucoup revenue quand même.
Même thème. Il y a des questions.
C'est quoi votre origin story, quoi?
Il y a des questions vraiment récurrentes, quoi. Et donc voilà, on les a divisées par catégories. Donc il y a quoi comme catégorie déjà? Donc on a le SAV, qui est tout ce qui concerne la vie du podcast. On a également, Noir, c'est noir, en gros, qui concerne tout ce qui est, voilà, la blackness, l'identité politique. On a pop culture, qui désigne les questions sur la pop culture. Question indiscrète. C'est toutes les questions, qui concernent nos petites vies.
Et donc, question indiscrète, ça vient à la fin?
Question indiscrète, ça vient à la fin. Là, je voulais dans l'ordre.
Jusqu'à la fin.
Voilà. Pour savoir, connaître la vie, dans l'ordre où ça vient.
Donc, voilà, je vais vous balancer des questions. Je serai le préposé aux questions. Merci. Et puis, on essaie d'y répondre assez vite.
C'est parti.
Okay. Alors, première question. Des fois, on va lâcher vos hâtes, vos pseudos. Et puis, des fois, on ne les aura pas parce qu'en fait, on a fait des screenshots et on est un peu à l'arrache. Et bref, tout ça pour dire que voilà, beaucoup d'amour, bisous, etc. Mais on pourra pas faire des big up à tout le monde. C'est la vie. Alors, on a une première question. Pensez-vous à enregistrer un autre épisode live bientôt?
Oui.
J'aimerais. I wish.
Vous êtes chaud ou pas pour
L'été, je sais pas. Cet été, je sais pas. Peut-être à la rentrée. Mais ouais, je suis super chaud pour live. Aussi bien live dans le sens où on prend des questions de gens qui sont, je sais pas, sur Twitch ou quoi. On discute avec eux. Ou live dans un lieu.
On a fait deux épisodes live dans des lieux, il me semble.
Mais c'était aussi une autre époque, parce que si on vise la rentrée, qu'à la rentrée, il y a Delta...
Delta 18. Mais c'était une super expérience. Moi, je me rappelle ce qu'on avait fait et tout. Et c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de...
Beaucoup de love.
Beaucoup, de ressentir un peu l'enthousiasme des gens et tout. Mmh. C'était trop cool. Bien sûr, au début, on se chie dessus avant de rentrer sur scène. On n'y va pas et tout. Mmh. Mais une fois qu'on y est... On kiffe.
Moi, je me souviens, le premier, je disais, c'est un peu comme un accident de voiture, tu sais, le truc qui se passe hyper vite, et en fait...
T'as l'impression que ça dure 10 minutes, alors qu'en fait, t'as parlé 1h30. Ouais. Mais trop bien, donc
les deux lives étaient cool, la soirée aussi était super cool, on avait genre 200 personnes qui sont venues. Voilà, comme les restrictions, elles sont plus ou moins levées en ce moment, moi je pense qu'il faut en profiter pour faire un gros truc, mais on...
Si on peut, on le fait.
Ouais, stay tuned, on va tenter de faire ça. On a une deuxième question de Love Hangover, qui dit, dans vos rêves les plus fous, qui sont les invités que vous aimeriez recevoir et pourquoi Meryl? Vous savez, Meryl, rappeuse, toplineuse, chanteuse de zouk, chanteuse de dancehall, martiniquaise du Saint-Esprit, qu'on salue.
Meryl, viens dans le chip, je regarde la caméra en disant ça. Viens.
je pense qu'on kifferait recevoir Meryl déjà, en règle générale.
Alors moi, si on me demande mon invité de rêve, c'est...
Ouais, vas-y, prends-en un.
Angela Davis?
Non, pas Angela Davis, mais il est là, le Ta-Nehisi Coates. J'aimerais bien recevoir Ta-Nehisi Coates un jour.
En plus, il est à Paris.
Et je pense que c'est faisable. Je pense que ça va bientôt se faire.
Il est venu en plus à ta visite.
Je pense que ça va bientôt se faire. Je dirais.
Toi, ce serait qui?
Je t'en dis pas plus.
Moi, ce serait qui? T'as dit un truc intello, donc je suis obligée de dire un truc intello. Directement.
Tu peux aller dans la télé-réalité, hein, y a pas de...
Alors, Marvin de tout Toindel. Non, je rigole.
Des trashs, on en parlera plus tard.
Moi, y a tellement de meufs cool qui font des trucs super en France.
Que j'ai pas d'idée.
On n'a pas eu Amandine Gay, mais moi je trouve que ce serait intéressant de la recevoir parce que j'ai fait un truc avec elle pour la présentation, enfin notamment une discussion autour de l'afroféminisme avec une bibliothèque parisienne. Je trouvais qu'elle avait plein de trucs à dire, qu'elle a pas sa langue dans sa poche, et on a besoin d'invités comme ça qui viennent un peu secouer les gens. secouer un peu le cocotier, sortir des trucs là. Quand j'ai vu que Macron lui avait répondu quand elle a...
Ah ouais, c'est pas ouais, cette histoire.
Au sujet, en fait, c'était dans son interview sur Elle, où il a parlé des crop tops et tout là. La journaliste lui a posé une question en disant « Oui, que pensez-vous d'Amandine Gay qui dit que on ne peut pas, l'universalisme, ça a des limites parce qu'on ne peut pas effacer sa couleur. Même si on se dit « Je ne suis pas noire » et qu'en en fait, on va chercher un appart et qu'on est discriminé parce qu'on est noire, bah, t'as beau te dire que tu n'es pas noire, au final, t'es quand même discriminé. »
Ça peut être pour d'autres raisons. Hein, ça.
Et bah, voilà, c'est exactement la réponse qu'Emmanuel Macron a donnée, d'ailleurs. Et du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant de voir que bah, c'est cette pensée-là qui, encore, il y a quelques années, était minoritaire, commence à arriver
à gagner du terrain
au plus haut, donc c'est chouette.
Dans les plus hautes sphères de l'État. Moi, mon invité, mon dream invité, bon DMX. Après. Non, DMX, après, bon, il a un peu canceled maintenant, mais ouais, j'aurais dit Booba, franchement. Booba.
J'ai cru que t'allais dire Kanye, j'étais là genre.
Ah oui, Kanye aussi, bien sûr.
Ah, grave,
bien
sûr, Kanye,
mais demain, après demain,
entre deux Fashion Week et...
Alors, attendez, ceci est une émission collégiale, on décide tous les trois.
Kanye, moi, Kanye West.
Kanye qui nous vient. Bref.
On est deux contre une, Kanye West. Next. Allez, question suivante, qui a été posée par Kadi. Où est Mélanie? Alors, je vais répondre
quoi
à cette question.
Je suis là.
Elle est sur le canapé, voilà. À ma gauche.
Bonjour.
Non, je sais pas, peut-être que c'est une auditrice qui a peut-être maté l'épisode, tu sais,
ouais,
qu'on a fait
avec
Jennifer, pas Jamie, où t'étais pas là,
ouais.
Donc voilà.
Ouais, ouais. Non, j'étais pas là, je crois que j'étais en vacances à ce moment-là, mais je suis là, sinon.
Sinon, tu es, oui, je peux confirmer, elle est là.
C'est pas une intelligence artificielle.
Question suivante, qui nous a été posée par Fatih. Pourquoi vous n'êtes pas régulier dans la publication des épisodes Emoji, yeux larmoyant?
Ah, c'est une grande question. Qui répond? Tu sais, c'est quand t'es en classe et que t'as une question où t'es là, genre, oui, bon. On n'est pas régulier parce que bah, l'année dernière, pour nous, ça a été un peu compliqué, je pense, pour beaucoup de podcasts aussi. Bah, déjà, pour nous, on était un peu sur le départ d'un studio. Et en plus, après, avec tous les événements qu'il y a eu, on s'est retrouvés confinés. Enfin, je pense que ça a été compliqué. On a réfléchi au fait de faire des émissions un peu à la Sbeul, entre nous, avec trois micros et une bouteille de rhum, comme au début. Et finalement, on a arbitré contre. On s'est dit qu'entre-temps, bah, le chip avait évolué, qu'on avait, même en termes de prod, qu'on était passé un peu un niveau un petit
professionnalisé.
Peu...
Professionnalisé.
Un peu plus pro. Voilà, on n'avait pas envie de se retrouver, enfin, de revenir en arrière. Et donc, c'est un choix qu'on a fait aussi. Après, on a tous les trois aussi pas mal de choses à côté, professionnelles, qui nous demandent aussi beaucoup de temps. Donc, effectivement, on est moins régulier que ce qu'on aimerait.
C'est vrai, il y a des fois où tu veux sortir un épisode et puis bon, bah, on n'arrive pas à se caler sur le règle, des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est un peu artisanal, quoi. La façon dont on s'organise, c'est un petit peu artisanal. Et c'est en train de changer, d'ailleurs, avec le studio Majorel. Donc, c'est quelque chose de plutôt cool.
Très cool.
On va essayer d'être plus régulier. Enfin, je sais pas, on verra.
Pas cet été,
je
mais
fais,
après.
Ouais, je fais zéro promesse là-dessus. Non, c'est... Allez, question suivante de Gridin. Est-ce que le concept Paris Noir s'est exporté dans d'autres villes françaises ou étrangères? Alors, est-ce que tu as des copycats?
Le bord de Noir.
C'est pas des copycats, au contraire, c'est des gens à qui j'aimerais passer des...
le groupe.
Non, mais des gens à qui j'aimerais passer le big up, qui certains ont commencé un peu avant moi, en même temps que moi, un peu après moi. J'ai eu la chance de faire à New York, j'ai fait une visite du Black Gotham animé par Kamau Ware et qui raconte les notamment les rébellions d'esclaves au 18e siècle avant l'abolition de l'esclavage dans l'état de New York parce qu'il y a eu de l'esclavage super intéressant. Il y a eu des visites. Il y a une visite autour de l'esclavage à New York qui est super intéressante. J'ai fait la visite de Calvin Soares à Bruxelles sur l'histoire congolaise, l'histoire de la colonisation. Et il y a pas longtemps, je l'ai googlé voir ce qu'il devenait. Il est plus guide, il est député.
Ah ouais.
Ça m'a fait descendre de 2-3 crans, tu sais.
Wow.
Et le troisième, oui, j'ai fait Naki, qui est super, super bien à Lisbonne.
Au Portugal.
Sur l'histoire, voilà, de très ancienne, de présence africaine au Portugal. Donc, non, il y a plein de trucs qui se font. Bordeaux, j'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, il y en a à Londres, il y en a partout.
Ce que tu as dit sur New York, ça m'a fait penser au truc. Vous avez vu la vidéo virale, là, du night show où. Je crois que c'est Sachir Zamata, la meuf là.
Ah, ok, une ancienne de SNL.
En fait, ouais, t'avais plein de villes englouties.
Ouais.
En plus du Black Wall Street de Tulsa.
De Tulsa, mais oui.
En fait, t'avais eu plein de villes où en fait des communautés entières noires ont été recouvertes par des blancs qui ont dit en fait, déjà, on va tous vous virer Et puis, on va créer des lacs. Et donc, le Central Park, il y avait Central une Park, communauté noire et, qui a été recouverte.
Et aussi au niveau plus bas, au niveau de Wall Street aussi. Donc, tu avais pas mal de trucs importants au 18e.
Ouais, ouais. C'est ouf comme histoire.
Mais, voilà.
Alors, question suivante de Abiline. À quand une deuxième meuf, like Maboula ou Rokaya? Alors, ça doit être une référence à Maboula Soumaoro, du coup, historienne, ou à Rokaya Diallo,
journaliste,
essayiste, tout ce que vous voulez, qui fait le podcast Kif Taras.
Kif Taras, c'est bien. Aussi.
Kif Taras, ce serait pas mal. D'ailleurs, je vous enjoins à écouter notre épisode crossover.
Il y a deux ans maintenant.
Ouais, c'est ça. Le chip versus Kif Taras.
Ça s'appelait comment? Oh non, Kif ton chip? Non.
Non,
Kif Taras.
Ouais, ouais, ouais. Qui était un épisode qui était très, 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 très marrant. On a commencé comme ça, le truc, ce serait compliqué de...
Et puis Rokaya, elle a déjà un podcast.
Maboula, je pense qu'elle est super
Busy. Son taf, fait sa vie, je sais pas trop quoi répondre à cette question.
Donc, ouais, on fait les choses de manière organique et tout, donc je le sais.
C'est comme si tu demandais les To Be Free à quand les To Be Fort, quoi.
Oui, Mélanie, c'est ça. C'est ça.
On va passer à la question suivante. Alors, Tisha qui nous demande, avez-vous pensé à passer en format TV? Eh ben, écoutez, est-ce que la TV a pensé à nous, j'ai envie de dire?
La télé...
On est déjà en vidéo, non?
C'est cool, déjà en vidéo, YouTube c'est mettre la télé.
Je trouve que ça colle à l'identité du podcast. La télé, si c'est pour aller se faire... Enfin, je sais pas.
Bah après, moi, je veux bien être payé très cher pour aller sur des plateaux télé pour débattre avec qui veut.
Si demain, on était sur BET, par exemple, ça me choquerait pas, tu vois.
BET, why not?
Si c'est une chaîne de télé qui est un peu en ligne avec ce qu'on fait.
Mais tu vois, je ne vois pas sur un truc juste... Voilà, enfin...
Moi, je suis prêt maintenant.
Mais pour répondre à la question, en fait, on n'a pas pensé à passer en format TV dans le sens où ça relève pas de notre décision en mode, tiens, venez, on va à la télé demain.
Et surtout, le concept, à la base, c'est un podcast, en vrai.
Ouais, voilà.
On l'a pensé comme ça. Donc, si un jour, on fait de la vidéo, ce sera, je pense, un autre concept.
Ouais, ouais. Donc, voilà pourquoi on n'a pas pensé à passer en format TV. Autre question de Kisha. Est-ce que vous pensez monétiser le podcast un jour? Alors, si c'est monétiser dans le sens le faire payer, genre le rendre payant, parce que c'est ça aussi monétiser.
C'est peut-être ça, je pense, la question.
Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, à titre perso, moi, je pense que j'aimerais bien que le podcast reste quand même en libre accès.
Il y a une vague en ce moment, là, Apple, ils ont commencé à proposer des formats payants pour certains podcasts. Il y a pas mal de studios qui sont en train de s'aligner et de créer justement ces formats payants-là. Moi, je trouve pas que ce soit pertinent. Après, peut-être que je me trompe et que dans 5 ans, je verrai que j'aurai tort et que tous les podcasts seront devenus payants et que ça cartonnera. Mais moi, je pense que le podcast, c'est justement le fait que ce soit un truc gratuit, ouvert à tous. Tout le monde peut en faire, tout le monde peut en écouter. Et c'est une des grandes raisons de son succès, en fait.
Après, pourquoi pas des épisodes inédits qu'on peut débloquer moyennant. Voilà.
Oui, pourquoi pas.
Alors, question suivante de Kisha également. Est-ce que vous seriez prêt à être invité dans une émission radio en tant que guest? On l'a déjà fait plein de fois.
Ouais,
on a tous participé à des tas de podcasts, des tas d'émissions radio, etc. Donc, la réponse est un grand oui. Question de Didi. Bonjour. Est-ce que vous comptez faire une réédition du jeu, le jeu du chip qu'on avait fait à l'époque avec Binge?
On a eu des propositions. Ouais, on n'avait pas le temps, mais on a eu des propositions il y a quelques mois. Peut-être.
Pourquoi pas. Faudrait qu'on s'arrange, etc. Mais...
Ouais.
Pourquoi pas? J'avoue. Question suivante de Franck. Il est pour quand l'épisode live en Martinique? Bientôt, j'espère. Merci à vous trois. Merci à toi, Franck. Et la réponse.
Tu nous invites, Franck? T'as un local?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si
travaille chez RCI ou un truc comme ça, un média local.
S'il y a moyen, franchement, moi je vous invite tous après chez ma tati Monique. On crèche là-bas et puis.
Il y a du cinnobol chez ta tati Monique?
Il n'y a pas de cinnobol chez ma tati, mais on trouvera du cinnobol sur n'importe quelle plage. Et de toute façon, épisode live, c'est quelque chose qui est de toute façon, comme on vous disait, c'est quelque chose auquel on pense. En Martinique, ce sera peut-être plus compliqué de venir tous les trois, mais ce serait un gros kiff en tout cas. Question de Jules et Warner. Est-ce que vous allez lancer du merch? J'ai des cadeaux à faire. Emoji, clin d'œil. T'as vu que j'ai fait l'emoji clin d'œil.
Du merch? Donc,
moi, je kifferais bien.
Stickers ou des tote bags?
Stickers, tote bags.
Mug, gourde.
Bougie. Moi, je veux être la nouvelle Erika Badou, tu vois. Faire des...
Mec.
Faut t'expliquer.
On a
tous eu une image mentale.
Je voulais dire le nouveau Drake, voilà. Pardon. Okay.
C'est quoi le merch de Drake?
C'est pareil, une bougie qui sent comme Drake. Mais pas comme ses
genitals.
Voilà. Quand c'est Gwyneth Paltrow qui fait ça, là, la bougie à l'odeur de son vagin, personne ne dit rien.
Mais meuf, atterrit. Personne n'a cautionné ça.
Bon, vous voulez du merch ou pas?
Moi, plutôt oui.
Tu le veux ou pas, mon grand merch?
Ouais, grave. On a un nouveau logo trop bien et tout.
On va y réfléchir, on a la DA, etc. Ce serait vraiment cool de le faire. Consommer noir. Question de Romain. Après le débat sur le rhum, à quand une chronique gastro avec une ou deux recettes? Gros bisous à Romain, c'est un pote à moi.
Donc vous deux, en tablier, qui nous disent « Voilà comment on fait un vrai petit ponche ?»
Alors, comment tu fais pour... j'allais imiter
tu
Maïté.
Tu casses la glace et tout.
J'allais imiter Maïté, mais je suis très mauvais en accent sudiste.
Ouais.
Tu casses la glace? Non,
je n'arrive pas. Il y a un petit truc. C'est pas mal.
Moi, je suis très nulle en cuisine, personnellement. Donc, je vous regarderai et je mangerai.
Épisode tuto, peut-être pas, mais genre un épisode sur la food, je pense que c'est déjà prévu.
Qui c'est qui cuisine le mieux entre vous deux?
Moi, je sais pas. Moi, je suis pas un peu fier de mon curry d'agneau.
Ouais, je pense que t'es meilleur. Après, je fais deux, trois trucs depuis quelques temps, mais je
fais des quiches, je fais des trucs.
C'est vrai que
t'as
un côté homme à marier, toi.
Mais un épisode sur la food et sur food et race, food et colonialisme, etc. Il y a plein un truc super intéressant à dire. Il y a un docu La part du lion,
c'est tellement
Netflix,
faux
qu'il faut
c'est
qu'on
trop, mate trop
et
bien
que, et que enfin ouais
il y a des trucs sur enfin bref ouais,
voilà
pas,
donc food
pas, ouais, c'est trop bien c'est La part du lion. Regardez La part du lion sur Netflix en 4 épisodes, j'ai vu les 3 premiers, c'est chambé.
C'est un grand oui donc pour un épisode food. Une question de Clarisse qui dit: on ne vous entend pas du tout chipper, qui chippe le plus dans les clips?
Ça,
je sais pas, mais l'autre fois il y a une fille qui m'a bousculé dans le métro et j'ai chippé, elle m'a fait: ah vas-y, pourquoi tu chippes? J'ai pris l'habitude.
Non, je sais pas qui chip le plus, je sais pas. Peut-être moi, je sais mon côté de blédard, je sais pas.
Moi, c'est quand je joue en fait, beaucoup, quand je joue à la console, parce qu'à chaque fois, je vais m'énerver sur le jeu et je vais beaucoup chipper. Ouais, voilà. Donc, je crois qu'on a une autre question, je sais pas.
Moi,
si...
je m'en rends même pas compte. Des fois, je chip et je m'en rends pas compte, quoi.
Tu chipes dans ton sommeil.
Non, non, mais je veux dire au boulot et tout, quoi. Et les gens, ils me regardent et je fais merde.
Ça va, t'es pas face à des CPE du 93 qui...
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
2 heures de colle.
Ouais. On va dire que la réponse c'est Kevin.
Ouais.
Alors, question de. Je vais avoir du mal à prononcer ce pseudo, Reggie. Je vais dire Reggie Cause, mais désolé si je
j'écorche. D'accord, on dirait un nom de médicament.
Voilà.
Okay.
Est-ce qu'un jour vous allez venir à Lyon? Promis, j'essaie de vous faire une fan zone en mode champion 98. Alors,
wow.
Ça, je kiffe. Moi, je kiffe Lyon. J'ai un très bon pote. Ben, mon pote, justement, Romain, vit à Lyon et je vais régulièrement le voir. Est-ce qu'on fera un épisode d'Amérique?
Moi, je culpabilise vis-à-vis de Lyon parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui habitait très longtemps à Lyon, qui maintenant vit à Paris et je suis jamais allé le voir à Lyon. Et j'ai jamais mis les pieds à Lyon de ma vie. Et je sais que toi, t'as des attaches à Lyon.
Ah, ben moi, mon mec est originaire de Lyon,
ouais,
même de Bron.
Comme Karim Benzema.
Il a joué avec Karim au foot quand ils étaient petits. Donc,
c'est très, très beau.
Non, c'est chouette, Lyon. C'est chouette. Moi, je serais pas contre y aller.
Est-ce qu'on y viendra pour faire un épisode ou pour y aller, en fait?
Si c'est juste y aller et manger des trucs.
Si y aller, non.
Non, non, mais on peut y aller pour n'importe quelle raison, mais ça pourrait être cool, peut-être. Est-ce que vous êtes pour ou contre les fan meets? Enfin, les fan meets. Les meet and greet.
Ah, mais ça, c'est des trucs de youtubeurs, ça.
Ouais.
Et, ou de stars comme Avril Lavigne, ou qui est extrêmement.
Nous, il y aura
5
personnes, mais on s'en fout, tu vois. On va voir les gens et on rigole avec eux.
Non, mais et franchement, une tournée du chip, genre comme. Excusez-moi, mais comme. Comment il s'appelle le podcast? Vous savez.
2 heures de perdu, podcast.
Non, américain. The Nodes, ils ont fait une tournée nord-américaine, c'est trop stylé, moi je kifferais faire ça, donc pourquoi pas, du coup, on passerait à Lyon. Autre question de Reggie: à quand un épisode sur l'érotisme et le fantasme dans la pop culture noire?
Maintenant.
Moi je dis souvent.
Maintenant.
Moi je dis tout le temps behind the scenes.
C'est, ouais, c'est vrai, François, depuis l'épisode 2,
je pense.
Du chip, on parle pas assez de cul.
C'est bien, mais on parle pas assez de cul.
On parle pas assez de cul, on fait
et
pas assez
de cul. Et en fait, quand tu disais
cul,
tu parlais pas seulement, même pas genre de le cul pour dire le sexe, je crois même que tu voulais parler de la partie du corps anatomique, le cul. Un épisode là-dessus au début, non?
Il faut faire les deux. Okay. Il faut faire les deux. Donc oui, un épisode sur l'érotisme, c'est totalement. À un moment, je voulais qu'on reçoive une actrice porno noire. Française, pour parler de race dans le porno, etc., et de tout ce qui va avec, le fétichisme, tout ça. Donc bref, oui, épisode Q, oui. Question de Belayem: pourquoi vous nous avez abandonné comme ça? Pourquoi?
On l'a dit un petit peu.
C'est vrai.
Sur pourquoi
c'est
on n'était pas
parce
là.
Parce qu'on a des vies.
Mais c'était
parce
à nos
que...
corps défendants, en vrai.
Parce
moi,
que,
je
plein de choses.
Déjà, c'était même pas prévu, en plus. C'était pas prévu comme si on s'était dit, bon, on prend l'année 2020 off, c'est arrivé, comme ça, et même nous, on était un peu genre, bon, en fait, il n'y a pas trop.
C'est pas nous qui vous avons abandonné, c'est qu'on a été abandonné par les circonstances. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier. C'est moi, je chip le quartier.
D'accord.
Anyway, question suivante de LSL. désolé, c'est un pseudo que j'arriverai du mal, que j'aurai du mal à prononcer car il n'y a pas de voyelle. À quand une émission sur la naturopathie, les soins naturels dans certaines traditions? Alors Mel, t'avais fait un petit truc, enfin un peu lié à ça déjà.
Ouais. Moi, j'avais fait un petit truc autour de ça sur un livre que j'avais lu effectivement, qui parlait des traditions, notamment issues de l'esclavage, des gens qui se soignaient. Enfin, il y avait plein de trucs intéressants. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Après, je pense qu'il faudrait qu'on ait un invité parce que ou une invitée parce que je pense pas avoir les compétences pour raconter des trucs et tout. Mais ceci dit, moi, c'est un sujet qui me touche à la fois personnellement via ma famille en Côte d'Ivoire et tout. Donc, c'est clairement quelque chose qui, je pense, pourrait avoir un potentiel. Après, c'est pas très pop culture. Mais ouais, ça peut l'être.
Il y a moyen de le faire rentrer, je pense, là-dedans et tout. Et en plus, je sais que Kevin, ça fait un moment que tu as envie de faire un épisode sur le magico-religieux aux Antilles aussi. Oui. Et forcément, la naturopathie, les soins, ça rentre un peu là-dedans, tout ce qui est bain des marées et choses comme ça. Ouais. Aux Antilles aussi, il y a plein de trucs super intéressants. Donc, totalement, on fera un épisode là-dessus. C'est sûr. Question de Sour Stash ou Sourstache, je ne sais pas comment on le prononce.
Sourstache.
Comment ça va? C'est la question.
Comment tu vas, Kevin?
Allez, en deux mots, commence pas à...
Comment ça va? Ben, ouais, c'est, les choses sont souvent liées au professionnel, et moi, le professionnel, en ce moment, c'est un peu incertain, parce que le voyage international, même si ça déconfine, ben, il y a des variants à droite, à gauche...
J'étais sûr que t'allais faire une réponse longue.
Voilà.
Ah, mais donc, il a le droit, laisse-le
s'ouvrir. Je suis là pour vous mettre des coups de fouet pendant cette émission, je vous préviens, parce qu'on a beaucoup de questions. Quoi.
Ça va, mais à 2-3 semaines...
Ça va mieux qu'en 2020?
Non, 2021 est pire que 2020.
Ah ouais?
Ouais.
Parce que 2020, il n'y avait pas de visite.
Si.
Pendant le confinement?
Non, pas pendant le confinement, mais ça a duré 2 mois, c'était chiant. Et après, j'ai pu reprendre mon activité normalement. Là, entre fin octobre et mi-mai, pas le droit de se réunir à plus de 5 en extérieur. Là, ah oui, quand même.
5 noirs de...
non, 5 individus, on ne voit pas les couleurs. Donc non, chiant.
Moi, comment ça va? Eh bien, écoutez, moi, ça va. Je travaille beaucoup, je suis fatiguée, j'attends les vacances. J'ai pas mal de choses dans ma vie. Tu vois, quand tu as un saladier avec de l'eau dedans et que tu mets de l'huile et que l'huile, ça fait des petites bulles comme ça et fait. Que ça se réunit pas, bah, en fait, ma vie, c'est ça. Et moi, je suis comme ça. Je fais tourner pour essayer de donner quelque chose. Mais c'est compliqué. Mais sinon, ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des questions autour de la santé mentale aussi l'année dernière. Parce que effectivement, le confinement et tout ce qui s'est passé, c'était difficile. Moi, j'ai été sujette aux dépressions durant ma vie et tout, et donc je suis assez contente de comment j'ai surmonté tout ça. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ont surmonté ça, mais ça ne veut pas dire que c'est fini maintenant en fait, parce que je pense que le trauma va continuer. Donc, on a tous remis plein de choses en question et
la pire timeline.
Voilà.
Ouais. La pire timeline.
Mais on continue, on s'accroche. Vous connaissez le nouveau smiley, là, le nouvel emoji avec le bonhomme qui sourit mais qui a une larme qui...
Ouais, j'utilise beaucoup.
Voilà, c'est l'emoji 2021.
L'emoji de 2021.
Ouais.
Moi, ça va. Comme t'as dit, santé mentale, tout ça. J'ai commencé une thérapie avec une psy trop cool.
Trop bien. C'est quoi,
afro-américaine, intersectionnelle, etc. Donc c'est cool parce qu'elle prend en compte toutes les questions d'identité, de race, etc. Dans son approche.
Elle est en France
et tout. D'accord. Super intéressant. Et voilà. Après, à part ça, franchement, voilà, j'essaie de prendre soin de moi aussi.
Franchement, les gens, si ça va pas, allez voir un psy. Ça change la vie. Je refais la publicité, mais...
Et écoutez l'épisode du Chip qu'on a fait à l'époque, Arte Radio. Question suivante. Désolé, mais je vais vraiment vous mettre la pression parce qu'en fait, on a plus de 60 questions. Et là, on n'a même pas fini la
première section. Allez, vas-y, on voit.
C'est parti. Hello, déjà bravo pour votre comeback dans ce nouveau studio. Merci. Sinon, je voulais savoir comment ont réagi vos proches, amis, collègues, suite à la diffusion de l'épisode Nos soirées les plus blanches. Et comment le studio a pris l'info lorsque vous leur avez expliqué le sujet de l'épisode. Je vous kiffe depuis la période Afro Stream. La période Afro Stream, donc là, on a un vrai day one.
Une vraie day one.
Merci beaucoup. Changez pas. Merci, ça nous fait grave plaisir. Vous vous rappelez d'épisode Les soirées plus blanches? Genre, c'était un mois, tu sais. Comment ils ont réagi? Vous avez eu des réactions intéressantes?
Ah bah, moi, il y a une réaction intéressante devant nous, déjà. Il y a Adrien qui a mis un t-shirt Freddie Mercury Queen en signe de gros fuck pour François. Et j'avoue que c'est du panache. Je suis assez d'accord. Et puis sinon, non, par rapport à mes amis blancs, quasiment tous m'ont dit trop drôle, trop
unanime,
vrai.
Unanime, c'est un peu vrai.
C'est vrai. T'as mis le doigt. Après, il y a eu juste quelques retours sur Twitter et aussi un ami qui me l'a dit, par exemple, sur certains trucs très précis, genre le rock, danser le rock surtout. C'est pas tant un truc de blanc qu'un truc de gros bourgeois.
C'est pas faux, mais bon, on a le droit de faire des généralités, nous aussi, en fait.
Bon, tu vois, c'est comme quand les gens, ils vont te dire racaille et gens de couleur, tu vois, un peu dans le même truc, tu vois.
Moi, je revendique le droit à faire des généralités, des raccourcis, ils passent leur temps à en faire, et en plus, ça a les vrais effets.
De qui tu parles? Those people. Mais juste pour dire, moi, les gens, pareil, noir ou blanc, les gens m'ont dit, mais cet épisode était trop marrant, et vous avez pas menti, en fait. You didn't lie. Donc, voilà. Je pense que... C'est assez marrant, il y a même une copine qui m'a proposé de me parler des soirées Paquito qu'elle a fait.
Ah, voilà. Ça, je veux bien, si elle t'envoie des vocaux, je veux bien que tu me les transmettes, ça m'intéresse. Question suivante. Salut, je vous écoute depuis longtemps, j'apprécie énormément votre travail, merci beaucoup. Ma seule question, rhétorique sûrement, est la suivante. Pourquoi j'ai l'impression que François ne laisse pas assez parler Kevin et Mélanie et il coupe tout le temps la parole? Ok, il connaît plein de choses, merci. Et son savoir est très très vaste, merci encore. Mais aussi, il faut savoir laisser la place à ses camarades, avec beaucoup d'amour. Ricardo.
François, tu veux répondre? François, tu veux répondre?
Non, vas-y, Kelly, réponds.
Non, moi,
non, attends.
Tu vas pas savoir. Non, moi, j'ai pas l'impression. Je pense que ça dépend des épisodes, en vrai. Je pense que quand tu sais pas, tu te tais. J'essaie de réfléchir à cette saison. Je crois que j'ai été un des plus bavards, en fait, sur cette saison, notamment sur mes segments qui ont été longs, sur Norman, sur Napoléon. Ça a été, j'ai explosé. Les chronomètres, donc je sais pas trop.
Non, je pense que on se marche tous les trois beaucoup sur les pieds les uns des autres, on se court-circuite beaucoup et sûrement que moi aussi du coup je court-circuite beaucoup. Donc voilà. Après, je ne voudrais pas me rendre coupable de mansplaining ou de
manterrupting.
François splaining. Blacksplaining, ouais. C'est un bon nom de podcast. Ouais. Tiens,
mais moi, je voudrais juste dire, c'est l'insécurité. Non, mais en fait, je pense que oui, effectivement, on parle tous les trois. J'ai peut-être moins parlé ces derniers temps, mais moi, j'ai toujours trouvé que ce qui faisait aussi l'équilibre de cette émission, c'est qu'on avait tous nos points de vue différents et qu'on arrivait à s'écouter. Après, effectivement, des fois, je le dis pas méchamment, mais des fois, il y a des petits trucs de man-interrupting. Wow. Mais voilà. Mais sinon, globalement, je trouve qu'on garde quand même un bon équilibre et qu'on n'est pas non plus...
Un homme hétéro, cisgenre, machin, je prends. I take it. Je fais du manspreading des fois aussi.
Dans le métro, là?
Dans le métro. Non, pas dans le métro. Je le fais sur mon canapé. Question suivante, qui n'est pas une question, qui est sur une injonction. Parlons des sportives noires. C'est prévu?
Ouais.
C'est prévu?
Bah oui, c'est prévu, ouais.
Tu veux faire un épisode sur Marie-Jo, même?
Je cours après Marie-Jo. Marie-Jo Zépérec. Si tu me regardes, je t'aime. Viens. Mais ouais, grave. Non, les sportives noires, surtout en ce moment, il y a plein de choses à dire. Vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé avec la
Chacun
coureuse.
Chacun, bien sûr.
Ouais, il y a eu aussi les bonnets de bain dans les piscines, vrai, pour vrai, les cheveux afro. Enfin, il y a plein de sujets hyper intéressants. Et ouais, en fait, les femmes noires, enfin, surtout en athlétisme, moi j'adore l'athlétisme, enfin j'adore regarder l'athlétisme, nuance. Mais ouais, sur le fait aussi qu'il y a encore deux joueuses, enfin deux athlètes qui ont été virées des JO parce qu'elles avaient des taux de testostérone trop élevés. Enfin, il y a vraiment une vraie question de comment les femmes noires sont vues en fait dans le sport.
Donc c'est prévu. Grave. C'est prévu et c'est cool. On va passer à la section suivante. Ce sont les questions que j'ai intitulé Noir c'est noir, c'est-à-dire toutes les questions voilà sur l'identité politique.
C'est une chanson, ça, non?
C'est oui, Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Tout à fait. Ou alors, si tu veux citer un truc plus récent, Booba également a fait un petit truc là-dessus dans Neuf de Yveron. Première question de Link Cleaver. Quand on est noir et qu'on a passé toute sa vie entouré de emoji cercle blanc, je pense que ça désigne les personnes de Coderme du coup. Et entre parenthèses, elle dit c'est fatigant. Comment rencontrer/avoir un entourage noir? Qui veut répondre? Maintenant, je vous demande qui veut répondre, parce que si on répond tous les trois à chaque question, ça va être compliqué.
Moi, je peux répondre. Je pense que c'est moi qui ai peut-être cette expérience la plus proche. Et je pense aussi que c'est le cas de pas mal de personnes noires en France. Moi, je dirais, effectivement, c'est par maintenant via Internet, mais aussi par les centres d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que, fort malheureusement, il y a pas mal de domaines où les personnes noires... dont les personnes noires se sont exclues, pas mal de milieux. Et moi, du coup, il y a un truc que j'ai appris à faire depuis assez longtemps, c'est quand je vois une personne noire, un peu ce que tu racontais dans le dernier épisode, tu vois, quand t'as vu un mec noir en soirée et tout, et que tu vas le voir, tu dis salut. Je pense que ça, rien que ça, c'est aussi quelque chose, c'est une manière volontaire et délibérée en fait de se rapprocher.
C'est quelque chose qu'on sait pas faire ici. Ouais. Et c'est très mal vu.
Aux États-Unis, il y a le nod.
Ouais.
En France, on n'est pas suspect. Du tout dans ce. En France, c'est suspect. Et puis en plus, c'est oui. Vous faites quoi? Enfin, je me rappelle encore, on avait fait un atelier d'écriture. Autour de l'afroféminisme. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de femmes noires. Et il y a un mec blanc qui est venu nous voir en disant « Mais c'est un peu communautaire, votre truc. Oui. Pourquoi vous êtes entre vous et tout ?» Donc, voilà. En France, en plus, on est quand même dans un milieu où, voilà, on n'aime pas trop ça. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment être très délibéré dans l'idée de se dire « Voilà, je cherche à rencontrer des personnes noires pour avoir... »
J'ajouterai un bémol, c'est que aussi on est en France et donc il y a de très, très, très fortes chances que la personne noire en face de toi n'ait pas envie.
Oui.
Ça, c'est une première chose.
Non,
c'est pas parce qu'on est noir qu'on va être pote. Non, machin, je veux pas montrer aux autres que je fais du favoritisme et tout. Et la deuxième chose aussi, je crois, et là, pareil, je parle sous ton contrôle parce que j'ai principalement grandi en Martinique, mais c'est que il y a une forme, j'ai l'impression, de culpabilité aussi de noirs qui ont vécu dans des environnements blancs et qui ont peur d'aller voir d'autres noirs parce que ils ont pas les refs, ils ont pas le style vestimentaire, ils ont pas les goûts, ils ont pas des trucs et donc ils se disent, les noirs me détestent, etc. Donc c'est une question super.
Et puis, je pense qu'un dernier point sur ça, c'est aussi le côté... quand vous allez dans des milieux noirs, vous attendez pas à être accueillis en mode « Ah, trop bien !» et tout, parce qu'en fait, les personnes noires, elles vous ont pas attendu pour faire leur vie et tout, et c'est... Du coup, en fait, c'est juste... C'est des milieux comme des autres où il faut avoir des centres d'intérêt communs pour pouvoir s'intégrer et avoir quelque chose à dire, quoi.
La question suivante est de Alexandra. Quel est votre avis sur les réparations envers les anciennes colonies ? Kevin, je vais te faire la passe si ça te dérange pas, Mélanie.
C'est trop long pour répondre là-dessus. Je dirais de un que je suis plutôt pour, mais que réparation ça veut dire tellement de choses que voilà. Et la deuxième chose, c'est que moi je vais préparer un sujet là-dessus, pas pour le chip, mais pour mon PK solo, le Paris Noir, sur réparer, indemniser l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire, indemniser les crimes contre l'humanité, les atrocités, tout ça.
Donc stay tuned.
Il y a déjà une partie qui a été réparée. Enfin, les esclavagistes.
Oui, voilà, c'est ça.
Question suivante de SMNGBU. Désolé. Quels sont les sujets idéologiques sur lesquels vous ne vous entendez pas du tout ? Est-ce qu'il y en a déjà des sujets comme ça ? Est-ce que vous vous en repérez ?
Kanye West.
Non, moi je pense la censure. Je suis peut-être le plus libertarien.
Censure, tu veux dire cancel culture ou censure ?
Ouais, censure, cancel culture, liberté d'expression. Je pense que je suis peut-être le plus libertarien en mode.
Donc le nouveau stand-up de Bill Cosby, tu valides ?
Non, je le valide pas, mais
il a le droit de le faire.
Je serai pas parmi ceux qui va s'immoler par le feu. Ça veut pas dire que je suis fan de Bill Cosby. Même avant qu'il ait des problèmes avec la justice, je trouvais que c'était de la merde.
Par contre, là où je trouvais que vous étiez un peu en désaccord, moi j'étais plus en mode le cul entre deux chaises. C'est par exemple sur la question du trauma porn qu'on a fait
l'autre fois. Ah oui, par exemple aussi.
Où clairement, là vous avez deux positions différentes. Donc c'est peut-être ça le sujet. Après, je vois pas d'autres sujets sur lesquels on va être en genre désaccord. Ouais. Genre, ça va être des nuances, on va dire.
En fait, moi ce que je trouve intéressant, et je pense que je vous ai les déjà dit, c'est que on peut être d'accord sur un sujet, mais après il y a les subtilités du sujet, tu vois. C'est pas pour ou contre l'esclavage, c'est on est contre l'esclavage, c'est de la merde. Et après, à l'intérieur, on réfléchit à certaines mécaniques. Et moi, effectivement, j'ai des sensibilités autour du féminisme et des questions des droits des femmes et tout, donc je vais apporter ça.
Moi, je suis contre les droits des femmes.
Toi, François, t'as des sensibilités aussi sur d'autres sujets, peut-être plus culturels, musique, tout ça. Enfin, tu vois, et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait la force de l'émission, c'est que Captain Planet, quoi, tu vois, on a chacun notre bague et puis on apporte chacun notre truc et des fois on n'est pas d'accord, mais on arrive à montrer des facettes différentes d'un problème, quoi.
J'aime beaucoup la comparaison avec Captain Planet. J'allais faire une comparaison avec DBZ et la fusion, mais c'est que deux personnes, donc Captain Planet, ça marche mieux. Question suivante de Aristide. Est-ce que Joa Lucas Noah est inclus dans la communauté? Alors, Joa Lucas Noah.
On a dû googler.
Ouais, honnêtement, je sais pas si. Donc, tu connais pas Mélanie. Ok, je suis rassuré. Joa Lucas Noah, c'est un jeune garçon de 16 ans. En fait, c'est un fils de Yannick Noah, notre Yannick Noah national.
Wow.
Et comme vous le voyez, bon, déjà, Yannick Noah, il est lui-même métis.
J'adore, comme vous le voyez.
Non, vous le voyez pas, mais Yannick Noah, il est lui-même métis.
Un mélange de couleurs.
Il l'a eu. Merci, Kevin.
Un enfant.
Il l'a eu avec une femme blanche. Donc, c'est vrai que Joa Lucas est relativement.
Il est white passing, quoi.
voilà, c'est un garçon qui est blanc de peau avec des cheveux un peu ondulés. Il ressemble beaucoup à un des fils Sarkozy. Il a des yeux.
Putain, le tacle que
tu. C'est pas un tacle. C'est une... Il a une ressemblance, c'est tout. Tu vois, ils sont pas moches les fils Sarkozy. Et voilà. Est-ce que selon vous, ce garçon qui du coup serait, enfin, si on prend les vieilles classifications à l'ancienne,
sera un Carteron.
Carteron comme Patrice. Voilà. Moi, je...
Kevin, c'est toi le professionnel des classifications raciales.
Je n'ai pas de cheval dans cette bataille. J'ai rien contre ce jeune homme. S'il veut l'expression américaine venir au cookout, il est le bienvenu en théorie. Je pense que, en vrai, il y a la question. C'est pas tellement la question de ta race, de à quoi tu ressembles, de ton phénotype,
faut pas,
etc.
Faut pas se mettre à faire de la génétique.
C'est plus
la zoologie,
une question
quoi.
Culturelle parce qu'ils sont d'origine camerounaise et ça se trouve, ce jeune homme en grandissant, il va vouloir se retourner vers les origines de son père, de son grand-père, etc. Et il est tout à fait légitime à le faire, même si il n'a pas une tête de Camerounais lambda. Donc,
il a droit.
Et puis de deux, il y a des blancs. Pardon. Et puis de deux, il y a des blancs en Afrique, aux Antilles, etc. Donc c'est.
En fait, ouais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect physique, effectivement, où clairement, s'il vient te voir et il te dit je suis noir, tu vas lui dire quoi ?
Tranquille.
Et puis, comme tu dis, Kevin, l'aspect culturel, en fait. Comment tu t'es construit ? Est-ce que ça fait partie de ton identité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché à comprendre ? Je pense aussi que c'est vraiment la surtout en France, où on encourage beaucoup au métissage et tout, c'est vraiment une question qui touche pas mal de gens, à mon avis. Et c'est... En fait, on n'a pas encore les réponses. Et c'est surtout aussi que c'est un sujet qui est complètement évacué, j'ai l'impression, du discours politique. Enfin, tu vois, on est tous français, on ne se pose pas les questions. Alors qu'en fait, c'est, pour moi, des questions qui se posent peut-être même plus qu'ailleurs.
Il y a quelques jours, il y a eu un débat sur LCI sur la question des statistiques ethniques. Et donc là, c'était évidemment l'hystérie. Et il y avait une dame qui disait « Oui, mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait des métis ?» Donc, comme les métis, c'est compliqué, du coup, pas de questions.
Quand elle va découvrir justement les cartes ronds comme Jean-Lucas Noah, elle va péter des câbles. Ouais. Question suivante de Try Every Day. C'est une question un peu difficile. Votre avis sur les Noirs et la politique en général ?
C'est nul.
Okay. En France ?
Vraiment, sois courte, s'il te plaît.
Ok. En France, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes politiques noirs français. On a des femmes.
Si tu vas en Guadeloupe, il y en a beaucoup.
Oui, pardon. Je parle du coup pour la France
au niveau national.
Hexagonal. Et je trouve que les hommes noirs sont stigmatisés et qu'en fait, on a des femmes noires. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Sarkozettes avec Ramayad. On a des femmes noires de premier plan qui ont été présentes dans l'environnement politique français. Mais Christiane, si tu veux venir dans le chip. Comment ça, non ?
Non, j'ai pas envie de recevoir Christiane dans le chip, personnellement. Enfin, c'est mon avis perso. Je te dis, j'ai pas envie de dire
on
à Christiane.
On la reçoit.
Juste parce qu'elle a une tatie énergie, ça veut pas dire que c'est ma pote ou que j'ai envie de lui faire
François. Lèche,
quoi.
François,
c'est quoi tes
on
séries préférées, Christiane ?
Je
connais quoi tes séries préférées, Christiane ?
Non, mais c'est ça, c'est une femme politique, ex-ministre de la Justice, mais je connais rien à son bilan politique, je vais pas faire une interview politique de Christiane Taubira.
Elle a fait quand même beaucoup de choses, mais bref. Ok, tout ça pour dire qu'on a des femmes noires de premier plan politique en France et on n'a pas assez d'hommes noirs, et je pense qu'il faut que... Hors les personnes que tu as citées. Et je pense qu'il faut que ça change.
Moi, j'ai plein de conspirations problématiques pour expliquer pourquoi, mais on en parlera aujourd'hui.
Allez, question suivante de Sinayaba, excusez-moi. Et si vous parliez plus d'Afrique que des Afro-Américains ? Alors, je vais répondre. Le problème, en fait, qu'on a, c'est qu'on est un podcast principalement de pop culture, et qu'en termes de contenu, et non seulement de contenu, mais aussi d'accès à ces contenus, parce que la vérité, c'est que même si y a beaucoup de films qui sont produits chaque année sur le continent, faut ensuite y avoir accès, autrement que par le téléchargement illégal ou des trucs comme ça. Donc, en termes de contenu et d'accès au contenu, évidemment que la culture américaine est largement surreprésentée sur les plateformes de streaming, dans l'espace français. Donc voilà, dès qu'on peut se saisir de ces sujets, on le fait. On a fait un épisode sur Tuki Buki.
Maîtresse d'un homme marié.
On a fait un épisode sur Maîtresse d'un homme marié. Donc voilà, on essaie autant que faire se peut d'en parler, mais il faut être réaliste. C'est vrai que 70% de ce qu'on consomme, ça va être... et parce que quand je dis on, c'est pas seulement nous trois, c'est en règle générale en France et même en Occident.
Non, mais il y a aussi, je pense aussi, des explications personnelles, c'est-à-dire que t'as pas de famille au Cameroun ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire qui que t'as au téléphone toutes les semaines et qui te raconte les derniers trucs. Faut aussi admettre certains angles morts, bien des sûr, choses comme ça.
Après, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur l'afrobeat, sur l'afropop, sur la musique en fait. Et là, on aura beaucoup.
Ouais, sur la musique, c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, quand j'en discute avec ma famille en Côte d'Ivoire, déjà, ils regardent pas beaucoup les séries et tout. Ils ont autre chose à. Enfin, ça les intéresse pas, quoi. Donc, je pense aussi qu'il y a ce trope. Voilà. Et puis, par contre, la musique, il y a des choses à dire. Ils ont vraiment une culture musicale qui est.
Non, mais ça peut changer aussi d'une famille à l'autre, tu vois. Enfin,
Et dès qu'il y a un film dont on peut se saisir, on le fait, mais c'est vrai que les occasions sont pas si nombreuses que ça.
Faut savoir qu'on a quand même commencé sur AfroStream, qui était littéralement une plateforme pour ça, quoi. Et il y avait du contenu afro-américain, antillais, mais aussi beaucoup de trucs du continent.
Bien sûr.
Anglophone, francophone et autres.
Question de Villois. Pourquoi vous ne parlez pas de l'homosexualité chez mes afros du continent et de la diaspora ? Alors, je pense que c'était prévu également.
C'est prévu aujourd'hui.
On voulait parler de la culture ballroom, notamment en France. Et puis, bon, l'épisode va être reporté. Donc, ça va se faire. On a reçu pas mal de gens de la communauté LGBT, mais c'était pas pour centrer l'épisode sur l'homosexualité. C'était des gens qui venaient pour parler
d'un sujet précis dont ils étaient experts, quoi.
Voilà, d'autres choses, etc.
Mais donc, c'est vrai que même historiquement, je pense qu'il y a des choses à dire, en fait.
Il y a des choses à dire. C'est évident. Ouais. Question suivante de Colorista. Le N-word renvoie à une époque esclavagiste. Alors pourquoi c'est une fierté pour les personnes de couleur de l'utiliser ? Alors j'ai fait un article pas mal là-dessus, sur le sujet. J'en profite pour le plugger. Pourquoi c'est une fierté de l'utiliser ? En fait, c'est
c'était
une fierté
sur
de l'utiliser.
Quel média ?
C'était sur Yard. C'est un article que j'ai écrit sur l'utilisation du N-word dans du mot négro, du mot nègre, peu importe.
Par les non-noirs dans le rap français.
Par les non-noirs dans le rap français. C'est compliqué.
Et qu'est-ce qui s'est passé depuis, François ?
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Bah, que Kra et Hamza, ils disent plus nègre.
C'est vrai. Et
ils ont lu ton article.
Et François,
j'ai envie de croire. De penser, à raison, je pense, qu'ils ont lu mon article, ils ont dit ah ouais, non, c'est plus possible et tout. Studio Majorel. Non, ouais. En gros, voilà, j'ai fait un article là-dessus. Et en gros, pour essayer de répondre le plus rapidement à la question, je pense qu'il y a une question de subversion, en fait, du terme. C'est-à-dire que la communauté noire utilise le mot parce que il y a tout un procédé qui consiste à récupérer une insulte qui était à la base dirigée contre nous et à récupérer pour justement en enlever le stigmate et se la réapproprier. De la même manière que chez les gays et les lesbiennes, on va entendre beaucoup de P-word ou de G-word parce qu'ils se permettent de le dire, parce qu'ils sont eux-mêmes concernés par le stigmate, et du coup, il n'y aura aucun problème avec ça. De la même manière, ben voilà, c'est ce qu'a fait Aimé Césaire, par exemple, quand on lui a dit le petit nègre, il a dit, bah, tu sais quoi, le nègre, il t'emmerde. En mode, oui, je suis nègre, et alors, il y a quoi? Donc, en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on utilise le terme. Et pourquoi, en fait, du coup, parce qu'on a une autre question de quelqu'un qui nous demandait, pourquoi, du coup, est-ce qu'il y a un double standard, et pourquoi les blancs pourraient pas l'utiliser, puisque les noirs l'utilisent.
On a eu ça comme question.
Aussi, ouais. Et donc, ben, la réponse, elle est simple, c'est que, ne devrait l'utiliser que les gens qui sont concernés par ce stigmate. Si tu n'es pas susceptible d'être traité de nègre dans la rue,
tu peux pas l'employer.
N'utilise pas le mot nègre en mode « I'm a nigger, I'm a nigger, I'm a nigger ».
Donc voilà. J'ajouterais aussi que...
Il y a beaucoup de choses, Kevin.
Il y a aussi un truc de tu dis tout le temps que le rap, la culture rap, c'est la nouvelle pop culture. Et à partir du moment où c'est mené par les afro-descendants et qu'ils ont une sorte de monopole sur le N-word, eh ben ceux qui sont à l'extérieur, ils font « Ouais, mais c'est tellement intrinsèque à cette culture-là que comment je peux faire un morceau de rap si j'ai pas le droit de le dire, tu vois ?» Et donc voilà. Donc c'est,
ça pose des dilemmes.
C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça.
Question suivante de Compte Découverte. C'est un drôle de nom, mais c'est Compte Découverte. Alors, avant de poser ma question, je voulais vous remercier pour la qualité de votre podcast. Sans votre détendez-vous, vous écoutez le chip quotidien, je pense que je pèterai un câble. Ça fait super plaisir. Ma question maintenant, je vous la résume parce que le message est un peu long. En gros, comment gérer nos amis blancs qui veulent à tout prix partir faire des voyages humanitaires en Afrique, etc., dans des pays qu'ils connaissent pas, en mode ils veulent jouer les white saviors finalement. Comment est-ce qu'on leur parle à ces gens-là et on leur dit ? Alors moi j'ai une anecdote. J'ai une amie qui justement est blanche et il s'avère que là elle a envie de faire de l'humanitaire. Elle va déménager dans pas longtemps et entre-temps elle veut faire un voyage et elle veut donner du sens à ce voyage et elle veut partir, je sais plus dans quel pays du sud quoi, le sud avec un grand S, hein, vous avez compris, pour aider les enfants. Et du coup, ben, c'est vrai que très, très naturellement, la question que je lui ai posée, et je sais pas si vraiment ça va lui parler, Mais je lui ai dit, si ton objectif c'est d'aider les enfants, proprement parlé, pourquoi est-ce que tu n'aides pas les enfants à Roubaix, par exemple, à Roubaix, ouais, en Île-de-France, il y a des coins en Île-de-France, en 93, par exemple, où il y a des gens qui sont en demande, il y a des structures, etc., d'aide à l'enfance, il y a des gens qui sont en demande de ce genre de...
Ou les migrants qui arrivent.
Bien sûr, les migrants qui arrivent, etc. Enfin, il y a plein d'humains et de petits humains à aider dans ton propre pays. Et en gros, la réponse était plus ou moins qu'elle voulait aussi en profiter pour voir quelque chose d'autre. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être un problème, c'est que souvent les gens... Des fois, je me demande si certaines personnes, alors je parle pas de mon ami en question qui vraiment a des intentions pures, mais c'est vrai que certaines personnes, parfois, on se demande si elles le font pour elles ou pour... Enfin, pour les enfants ou pour elles-mêmes. Donc voilà.
Je pense que ça va ensemble, en fait. Dans leur tête, elles se disent je fais ça pour les enfants, mais je fais ça aussi un petit peu parce que bon, c'est quand même cool, quoi.
Et en même temps, tu vois, qui suis-je pour blâmer quelqu'un qui va sauver des enfants au Cambodge, par exemple, alors que moi, j'ai jamais levé mes fesses du canapé pour faire quoi que ce soit, tu vois.
Mais je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir l'aspect historique de ce que ça veut dire, parce que c'est quand même rattaché beaucoup aux missionnaires.
Bien sûr.
Et les missionnaires, ils y allaient à la fois pour aider les gens, mais aussi pour les intérêts culturels, religieux des pays dont ils venaient. Donc, en fait, historiquement, c'est problématique dans le sens où tu viens et tu effaces la culture des gens. Et puis, aujourd'hui, c'est plus, j'ai envie de dire, sur Instagram, quand tu vois les meufs entourées de plein de petits enfants noirs qui font des selfies comme ça et tout, on n'en peut plus, en fait. Enfin, il y a vraiment un vrai souci. Et elles ne feraient jamais ça avec, comme tu dis, des enfants de Roubaix, en tout cas, en mode, regardez...
Moi, je le ferais, hein.
Moi, je le ferais aussi pour
mais voilà, c'est pour ça que c'est problématique. Mais effectivement, après, sur le comment, je pense qu'il faut en parler.
Il y a des ressources, il y a des articles intéressants. Sur ça,
Il faut parler peut-être de l'histoire, en fait, de cette pratique qui est pas neutre, en fait.
Ouais, et il faut faire écouter l'épisode du chip qu'on a fait qui s'appelle le chip du routard. Je crois que c'est l'épisode 2 ou 3 de la saison 3 du chip.
Keyhole
and Snapshot, tout à fait.
Snapshot.
Sur le voyage, et il y a des trucs intéressants, je pense, à dire là-dessus. Question suivante. En tant que petite meuf blanche, cis et privilégiée, je vous écoute avec attention. Et on est très content d'avoir des personnes blanches qui nous
Merci.
Écoutent. Alors, j'essaie de vous la faire court parce que c'est pareil, c'est un message un petit peu long. J'essaie de faire changer mes proches. Elle essaie de faire changer ses proches.
Ah oui, qui font des trucs genre tresses afro et tout.
Ouais, en gros, elle dit ça. En gros, la question, pour faire simple, c'est comment être une bonne alliée. Voilà, comment être une alliée lorsqu'on est une personne blanche. Voilà, c'est ça la question.
Moi, j'avais dit que j'avais un truc à dire là-dessus. Ça me fait énormément penser à la biographie et au film Malcolm X. En fait, il y a cette scène à Boston où Malcolm lui fait un speech. Et après, il y a une jeune femme blanche, blonde, qui vient le voir et qui lui dit « Qu'est-ce qu'une blanche comme moi, bien intentionnée, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider la cause ? Parce que je pense que vous avez raison sur de nombreux points. » Nombreux points, il la regarde et fait « Nothing. Rien du tout. » Et tu peux rien faire quand t'es blanc pour aider les noirs. Et en fait, après, il est revenu là-dessus lui-même en disant, en fait, si, je regrette ce que je lui ai répondu. En fait, la vraie réponse, c'est aller parler à vos gens. Moi, tu vas pas aller sauver les noirs à leur place, leur faire des trucs et tout. Par contre, c'est vrai que t'as une famille, t'as...
Je crois que c'est ce qu'elle demande sur... Comment elle parle aux gens, en fait ?
Mais comment elle parle aux gens ? Moi, je sais pas ce qui marche avec les blancs. Je sais que, de toute façon, et ça, c'est même des anciens néo-nazis qui le disent eux-mêmes, que la parole d'un blanc sur des questions de race qui parle à un blanc, ça a plus
audible.
De poids. C'est plus audible, ça a plus de poids que si c'est moi qui dis non, mais en fait... Donc, parlez entre vous. Et de toute façon, ces questions-là sont très complexes et ne se changent pas en une discussion.
De toute façon, on n'a jamais réussi à faire changer d'avis quelqu'un sur un truc aussi profond, juste en argumentant, quoi.
Ouais, juste en lui disant t'es con, t'es méchant. Ouais.
Non, franchement, il y a plein de gens qui ont changé de perspective. Après, le chip, c'est pas un podcast d'éducation à destination des personnes blanches, mais n'empêche que par ricochet presque, il y a plein de personnes blanches qui ont changé d'avis sur la race, le truc comme ça, en nous écoutant parler.
Et pourtant, on parle de Nicki Minaj et de Beyoncé, donc.
Mais pas seulement.
Ouais, mais tu vois, comme quoi.
C'est vrai.
L'éducation vient de partout.
On va passer à la section suivante qui est pop culture. On va être sur les trucs un peu plus légers quand même.
J'avoue, hein. Là, je me sens un peu.
Là, je me sens oppressé. Question suivante. C'est une question qu'on nous a posée sur Twitter. J'ai pas récupéré le pseudo. Désolé. Bonjour l'équipe. Ma question est la suivante. Est-ce que les playlists sont prêtes ? Emoji, main levée.
Les playlists ?
Bah, y a la playlist Zouk.
que je vais mettre à jour, je pense. Parce qu'au début, voilà, le but de la playlist était juste les sons dont on parle strictement dans l'épisode. C'était, c'était pas en mode.
C'était pas généraliste.
Ouais, ouais, c'était pas en mode zouk, les essentiels, le best-of, les sons qu'il faut absolument connaître, etc. Parce que sinon, tu sais, tu pars dans des trucs, c'est infini, tu vois. Puis il y aura toujours un puriste pour me dire, ah, t'as oublié ça, machin, etc. Tu vois.
Ouais.
Mais je pense que je vais la mettre à jour parce que ça me démange.
Ouais. Toi, tu fais souvent des playlists saisonnières, Kevin.
Si vous allez chercher Kevin Donat sur Spotify, vous allez trouver des playlists que je fais depuis genre 7 ans, tous les trimestres. Chaque saison, je me fais une playlist de 150 morceaux qui devient ma radio.
On va vous envoyer des playlists. Parce qu'en fait, là, comme c'est le dernier épisode, on va prendre une petite pause estivale et on va réfléchir à des formats d'émissions, etc. pour la suite. Et ben, on va en profiter pour balancer des trucs sur les réseaux, etc. Ouais. Et peut-être, du coup, des playlists.
Et moi, j'écoute que des meufs, en fait, en ce moment. Je me suis fait une playlist avec que des meufs dedans. C'est Women of Indie qui m'a inspirée, qui est une playlist de Spotify. Et en fait, c'est trop bien, quoi. Et je sais pas, c'est un travail, tu vois, de réfléchir à quel truc trouver qui rentre juste dans ce scope-là.
À la curation, mais c'est trop bien. Mais c'est pour ça qu'il est bon là-dedans, parce qu'il fait des bêtes de playlist, ce petit...
Et sinon, la playlist de Insecure aussi, elle est chambée sur Spotify.
Oui. Question suivante de Contreforie. Coucou le chip, déjà, vous êtes trop cool. J'adore votre vibe. J'adore ta vibe, Mélanie. Ma question est grave. Ok, ça parle bien de Harry Diboula, mais quid de Patrick André Mitram? Je suis réunionnais. Donc le Zouk et le Zouk Love, on a tout reçu, tout pris, et c'est nice, bonne continuation à vous. Alors
je ne connais pas ce monsieur Patrick André Mitram.
Alors,
André.
Non, j'ai pas eu le temps de le faire et je dois admettre. C'est un truc en fait. C'est une question qui est intéressante parce que c'est pas la première fois qu'on reçoit une question ou un DM par rapport à la culture réunionnaise. Et c'est vrai que nous, au Chip, on a un angle mort sur la culture réunionnaise. On parle jamais de ce qui se passe là-bas, on parle jamais de pop culture de là-bas, etc. Et c'est vrai que pourtant, bon, voilà, c'est notre people, quoi, tu vois. Donc voilà, on va y réfléchir, on aimerait bien faire un truc, mais on cherche un angle, on va pas juste faire un épisode en mode, vous savez que la Réunion ça existe. on va essayer de trouver
une épisode Réunion. La Réunion,
voilà.
La Réunion
on est là, on a écouté Blacko de Sniper et ça y est, on est arrivé et c'est la Réunion, quoi. Non, on va essayer de trouver un truc cool, mais il faut qu'on en parle de manière intelligente et intéressante. Et donc Patrick André Mitram, si c'est du bon Zouk Love, je suis preneur et j'écouterai ça. Question suivante de Laïla Véron. Le chip.
Parler comme jamais.
Parler
comme jamais.
Des tas de bisous.
Bisous, Laëlia.
Qu'est-ce que vous espérez / redoutez pour la saison 5 et le final de Insecure? Il y a une deuxième question. Alors, tu sais quoi, Mel, je te fais la passe pour Insecure et après Kev, je te fais la passe pour la deuxième question. Comment Kevin fait pour rester calme quand il décrypte les conneries de Norman et d'autres? Vas-y, Mel, sur Insecure. Et t'as pas intérêt à dire Tétimissa. Tu vas dire Tétimissa, je le sais.
La dernière saison. Non, mais moi, je rigole beaucoup des mèmes sur Internet de la dernière saison, de la saison 4 où. Condola, donc, qui est enceinte de Lawrence. Mais c'est pas un spoiler.
Bon, okay. Spoiler, il y a 2 ans, frère.
Ça va. Qui, du coup, l'appelle tout ce condom et tout. Enfin, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, je redoute que la série tombe un peu dans le trope de « Oh là là, maintenant, il y a un bébé à élever et tout. » Mais je pense qu'elle sera au-dessus de ça. Je pense qu'elle passera, parce que souvent, quand les séries s'essoufflent, on fait intervenir un bébé ou on fait intervenir un mariage et tout. Mais non, je pense que ça va être super. Moi, je pense aussi qu'ils vont beaucoup miser sur le cœur de la série, qui est l'amitié entre Issa et Molly. Et je pense que ça va vraiment être le final, parce qu'au final, cette amitié qui dure depuis le début, qui est en temps de scie, on va dire, je trouve qu'elle est hyper réaliste, en vrai. Je trouve que c'est peut-être une des images les plus réalistes que j'ai vues de l'amitié féminine à la télé, et j'ai trop envie que ça continue. Ce que je redoute, c'est que la série finisse en mode « Ok, on n'est plus amis, ciao !» Et je sais pas ce qui va se passer pour Issa, mais je pense qu'en fait le chemin amoureux de Issa, c'est pas le cœur de la série, c'est le chemin
l'amitié
et qu'elle arrive à se trouver en tant que personne et décider ce qu'elle veut faire vraiment, quoi.
Ils feront mieux que la dernière saison de Game of Thrones, ça c'est sûr.
Moi je redoute que la série finisse. Et j'espère qu'elle va continuer. Du coup, je vais être doublement déçu.
Là, tu te prépares pour un disappointment.
Kevin, comment tu gardes ton calme? Comment est-ce que tu arrives à garder cette composure si...
Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose de ma nature où je suis pas spécialement. Enfin, je suis plus rancunier.
Tu t'énerves jamais, Kevin?
Pas trop. Je suis pas trop quelqu'un de colérique. Je peux garder des rancœurs très longtemps. Je peux garder des rancœurs très longtemps, mais je suis pas trop vénère à me vexer de trucs. Donc j'aime bien les idées, en fait. Je me choque pas trop pour les idées politiques des gens. Et donc le spectacle de Norman, j'ai essayé de regarder avec des yeux presque bienveillants. Malheureusement, c'est nul. Enfin, d'un point de vue van, rythme, machin, c'est pas bon. Tu vois, c'est le conférencier qui parle, qui fait frère. Non, c'est pas ouf. T'es pas très charismatique. Après, sur le fond de ce qu'il pense, je suis pas d'accord avec lui. C'est pas très bien amené. Et je l'ai dit gentiment, je pense. Mais par contre, il m'a amené à une réflexion dont je suis pas peu fier. Il m'a permis de parler du bouquin American Spy. Si j'avais parlé comme ça en disant bonjour, je voudrais vous parler d'un roman qui est pas encore sorti en anglais, nanana. Non, je commence par Norman qui parle de ça. Et puis après, je plug le livre.
T'as pris de la merde et tu en as fait de l'or.
C'est ça.
Tu es l'alchimiste du chip, Kevin.
C'est ça, merci.
La question suivante est de Sarah. Le Disney préféré de chacun? Oui, c'est une question importante. Vous êtes géniaux. Un plaisir de vous entendre. Longue vie au chip. Merci beaucoup.
On peut chanter, non?
Je pense que c'est l'une des meilleures questions
ever
de la catégorie de des questions. Hein. C'est quoi le tien, Mélanie?
Bah, c'est évidemment celui qui se passe en Afrique et où il n'y a pas de personne noire dedans, le Roi Lion. non, mais je pense que c'est... Déjà, en vrai, c'est pour moi l'aboutissement de la Disney Renaissance des années 90, qui a commencé fin des années 80 avec La Petite Sirène et tout. Et puis après, il y a eu... Il y a eu genre une suite de films Disney trop bien, donc Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, enfin Le Roi Lion. Et je trouve que Le Roi Lion.
Ça s'est terminé avec l'Atlantide, quoi.
Voilà, et à l'Atlantide, on a fait bon, merde. Et, mais je trouve que, ouais, dans Le Roi Lion, parfaite adaptation d'une pièce de théâtre, enfin le côté Hamlet.
Oui, Shakespeare, ouais. Ils ont surtout adapté Le Roi Léo.
Ah oui, Le Roi Léo.
Le Roi Léo, mais c'est ça, en fait, ils ont pris plein d'influences et tout, et ils en ont fait un truc trop bien. Mais ce qui est ouf, et ça j'aime beaucoup, du coup j'aime tellement Le Roi Léo que je regarde des vidéos analyses sur YouTube du making of du Roi Léo, et il y a une vidéo qui explique ça super bien, qu'en fait il y avait Pocahontas et Le Roi Léo, qui était en train de se faire au même moment. Et en fait, tout le monde voulait bosser sur Pocahontas, parce que Pocahontas, c'était l'histoire des États-Unis,
ouais, sûr,
c'était le projet ambitieux et tout. Et Le Roi Lion, c'était un peu genre, bon, ben, allez, on fait ça et tout. Et en fait, je trouve que Le Roi Lion a un héritage beaucoup plus fort. Enfin, voilà, il y a Beyoncé qui a fait un film, il y a une comédie musicale qui dure. Enfin, même le film en lui-même, il est top, quoi. Enfin, il est super bien écrit. Tu le regardes, le jeu vidéo sur Super Nintendo. Bon, bref, voilà, Le Roi Lion.
Kevin.
J'aurais dit Le Roi Lion pour toutes les raisons que Mélanie a citées, mais du coup, je vais dire Wall-E. Et allez voir la vidéo du Bolshe Geek, youtubeur génial qui fait plein de vidéos essais, c'est français d'ailleurs, et il explique pourquoi, en gros, Wall-E, c'est le film, c'est peut-être le Walt Disney le plus progressiste, le plus de gauche, le plus anticapitaliste, pas forcément volontairement, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant.
Il est extrêmement poétique, quoi, il est moins premier degré, on va dire, que la plupart des
Disney. Et c'est un hommage aux comédies romantiques des années 40-50. Ouais, c'est un chef-d'œuvre.
C'est un très très bon
film. Trop beau.
Moi, pareil, j'aurais sûrement répondu Le Roi Lion, parce que évidemment, c'est quand même le banger, c'est le classique, quoi. Maintenant, puisque Le Roi Lion a déjà été cité, j'aimerais bien parler de.
Atlantide.
Non. j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles, qui okay. est un film.
C'est parce
qui
que t'as
faisait,
un stoner, non?
Même pas. C'est pas moi. Et comment dire? C'est un film qui me faisait très peur quand j'étais petit, en fait. Il me faisait peur parce que c'est un film où il y a beaucoup de... il est très fidèle, je trouve, à l'œuvre de Lewis Carroll. Il y a beaucoup d'inquiétantes étrangetés, comme disait Freud. Et donc, il y a des passages un peu chelous avec le chat de Cheshire, ou quand elle marche, ouais, ou quand elle marche sur le chemin, et le chemin, il s'efface derrière elle, et dans le noir, etc. Quand t'es en enfant, c'est des images qui sont un peu perturbantes. Il est très psychédélique, en fait, comme film. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre, et donc voilà. Évidemment, j'aurais dit Roi Lion en premier, mais si je dois partir dans d'autres trucs, je dirais donc Alice au Pays des Merveilles. Ouais. La question suivante est posée par Lynx K. Pourquoi avez-vous autant changé de producteur? Ah tiens, c'est une question qu'on a mise là-dedans, alors qu'on aurait dû la mettre dans le SAV. Bon, on répond quand même. Pourquoi est-ce que vous avez autant changé de producteur hébergeur depuis le début, avec Afrostream, je crois? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu vous offrir pour que vous soyez en totale indépendance aujourd'hui? Êtes-vous tous les trois pleinement satisfaits de votre situation actuelle? Fausse. Merci.
Afrostream, ça a fermé.
Afrostream a mis la clé sous la porte. En fait, il s'est passé la même chose avec Arte Radio et avec Binge Audio, pour répondre à la question de manière très succincte. C'est qu'en fait, souvent, il y a des remaniements financiers, notamment, qui se font au sein de ces plateformes, et qui font qu'ils ne peuvent pas produire toutes les émissions tout le temps en même temps. Et manifestement, le chip, ben, ça coûte cher à produire, parce que c'est du talk, mais on est trois, donc il faut tous les trois nous rémunérer, etc. Et en plus, ben, pour les producteurs, des fois, ils sont... Comment dire ? Comme c'est juste du talk, on est là, on parle, etc. C'est pas le truc le plus bandant à faire pour un producteur qui peut faire du narratif, qui peut faire du docu audio, etc. Donc pour ces deux raisons-là, c'est vrai que des fois les plateformes nous regardent en mode ouais mais le chip vous êtes sympa mais bon. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que pour Arte Radio et pour Binge, c'est que on a été à chaque fois la variable d'ajustement. C'est-à-dire que dès qu'il a fallu qu'on va dire couper, vous savez, lâcher du lest, couper un peu dans les réserves, malheureusement on en a fait les frais. Et après, ça s'est toujours fait en bonne intelligence et dans une relative entente avec les plateformes.
Oui, on n'est pas parti fâché. Moi, je bossais encore, toi aussi, un peu avec Binge. Toi, tu bosses avec Arte.
On n'est pas parti fâché, mais ça a quand même un goût un peu doux-amer. Bah,
en fait, ouais, tu cherches ta place. Quoi. Tu te dis, putain, mais où est-ce qu'il va, notre podcast?
Tu cherches ta place et tu te dis, pourquoi nous, en fait, à chaque fois. Donc, ouais, en tout cas, à titre personnel, des fois, j'ai le sentiment qu'on ne croit pas assez, que certains producteurs ne croient pas assez
C'est une émission atypique aussi, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on l'a faite. C'est qu'il n'y avait pas d'émission comme ça avant, quand on est arrivé. Donc...
Êtes-vous tous les trois pleinement satisfaits de votre situation actuelle? Moi, je dirais oui. Je dirais qu'on est en bonne position. On est super bien avec Majorel. Adrien et Aldric, ils sont vraiment trop cool. Vraiment, on les adore. et c'est cool, quoi. Moi, je le sens bien. Vous avez rien à ajouter?
Non.
Alors, on passe à la suivante. Alors, Du Temps et des Jeux, podcast que tu connais, Mélanie, que je connais aussi. Album préféré de Tyler, album préféré de Beyoncé, album préféré de Damso. Quel est ton album préféré de Beyoncé ?
Self-titled, Beyoncé 2013, parce que c'est vraiment l'album où c'est le premier album qu'elle a fait avec sa team Parkour, où avant elle était encore dans le mode « Ok, je fais un roll-out, je fais des interviews et tout. » Et là, elle est arrivée, elle a fait « C'est bon, vous m'avez saoulé. Maintenant, je suis une méga star et je fais comme je veux. » Et voilà comment les choses vont être. Les chansons, je trouve, sont toutes bien. Il y a des bangers, il y a des chansons hyper introspectives. C'est la première fois qu'elle se dévoile où elle dit « En fait, depuis que j'ai eu un enfant avec Jay-Z, ça va pas et tout. » Enfin, incroyable. Album visuel. Enfin, on a pris plein les yeux. Elle a changé le marché du disque en arrivant sans annoncer en amont son album et tout. Et je pense que ça l'a fait passer un stade un peu au-dessus aussi de ce qu'elle était avant. Donc, je trouve que c'est une vraie révolution. Après, j'aime beaucoup les Monade aussi, effectivement, mais
c'est
voilà.
C'est la next phase, quoi.
Ouais, où tu vois, elle a fait. En fait, je peux maintenant, je peux le faire. Je peux faire ça si j'ai envie.
Elle est devenue.
J'ai le super pouvoir, super saiyan, tu vois. Donc.
Album préféré de Tyler, Kevin ?
Flower Boy 2017, parce que c'est un chef-d'œuvre, parce que ça arrive après ça, après Cherubim.
Bien sûr.
Que tout le monde a détesté Cherubim, et ensuite il était vraiment au fond du seau, il revient avec Flower Boy, beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. Ça, c'est aussi une période de ma vie, je pense, peut-être la plus heureuse. Donc j'adore Flower Boy. Igor aussi.
Faut choisir.
Mais ouais, définitivement Flower Boy, j'en ai parlé à l'époque, il y a longtemps.
Dans le chip.
L'album de la maturité, ce livre pareil, et musicalement, il y a du Stevie Wonder, il y a du Kanye, il y a du Neptunes, il y a tout ce qu'il faut, il y a Canagel, qui se fait. Bref, c'est la communauté l'a validé, c'est pas juste un truc chelou.
Réponds pour Damso aussi, parce que moi j'aime pas trop Damso. Donc
moi j'irais Ipséité.
Tu dirais Ipséité ?
Ouais, pour Damso.
D'accord, tu as fait preuve d'Ipséité. Mmh. Très bien. Et moi, je vais pas répondre. J'ai pas d'album préféré de ces trois. Si, pour Beyoncé, je dirais que. Sûrement le premier. Ouais, sûrement le premier.
Bidet ?
Non, le premier qui s'appelle.
Dangerously in Love ?
Voilà, merci, c'est ça, Dangerously in Love, je pense que c'est celui-là. Tyler et Damso, j'ai aimé des trucs chez eux, mais j'ai pas d'album préféré. Question suivante de Mademoiselle Oui. Est-ce que vous avez des recommandations, lecture, film, musique, peut-être une autre playlist, le Chip Summer, pour cet été? Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que on va faire des recommandations pendant l'été sur les réseaux sociaux, etc.
Faut qu'on avance.
On va lancer des playlists, etc. Et à ce moment-là, on fera plein de recommandations.
En plus, j'ai pas réfléchi, donc ouais.
Question suivante de Saïd. Vos sneakers préférés? Tu les as au pied?
Je les ai au pied. Dernière acquisition.
Nice. C'est quoi le numéro?
Avant, ça c'était Air Max 90. Mais avant, j'étais très Air Max One.
Elles sont roses et vertes. Elles sont stylées. Hein.
Avant, j'étais très Air Max One, mais ils en font plus. Et là, donc, je me suis converti au Air Max 90. Elles sont très, 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 très bien. Avant, j'aimais beaucoup les Dunk, modèle high.
Bien sûr.
Mais voilà, Air Max 90 all the way.
Moi, je suis pas une sneakerhead, donc je passe mon tour.
Moi, je suis pas du tout une sneakerhead non plus, mais si je dois quand même choisir, je dirais ce modèle, les Nike Blazer, qui est vraiment un modèle que je continue à poursuivre partout. Et ils le font plus dans le coloris que je voulais en fait. Mmh. Ils les font en noir et blanc, mais un blanc sec. Ouais. Alors que moi, je les avais en noir et blanc, mais un blanc un peu cassé, un peu vieilli, etc. Et le revêtement était en daim, et c'était incroyable. Je les avais achetés quand j'étais à Lille, et vraiment, ces pompes m'ont matrixé. Donc voilà, je dirais les Blazer. La question suivante est une question de Juniba que je salue parce que voilà on se connaît pas personnellement mais on interagit sur les réseaux depuis longtemps et je crois que c'est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps et qui nous demande une BD fantasy basée sur les folklores d'Afrique de l'Ouest en anglais, est-ce que ça vous tente? Oui.
On va dire non.
On va dire oui.
Faut vraiment, si vous avez jamais checké ce que fait Juniba, il fait des super beaux dessins. Moi, j'aime beaucoup son style. Alors, je vais sûrement dire des conneries, mais j'ai l'impression que c'est du comics, mais matiné d'influence quand même manga. Je dis sûrement des conneries.
Ah, moi, je vois du franco-belge hein, aussi dedans.
Et, ouais, ben voilà, tu vois, je savais que j'allais dire des conneries. Mais en tout cas, voilà, checkez Juniba sur Twitter. Bisous à Juniba et évidemment, ben, il parle de ça, il me pose cette question parce que il a lancé sa BD qui s'appelle Jellia et qui justement parle de tout ça. Donc oui, c'est un grand oui. La question suivante. Hello, vous pensez quoi de la série Mortel sur Netflix? Quelqu'un veut répondre?
Moi, je vais répondre.
Allez, vas-y.
Je pense que l'intention est bonne, l'exécution l'est moins. Je trouve que c'est un peu maladroit, je suis pas hyper fan du traitement du personnage de la jeune femme que j'aime beaucoup
mais
d'ailleurs.
Dis donc.
Mais j'aime beaucoup cette actrice en plus.
Manon Brèche.
Elle est trop cool et tout. Je trouve que c'est une occasion manquée. En plus, les influences de la série sont cool. Je crois que le mec a dit qu'il aimait bien Buffy. Enfin, il y a plein de trucs.
Moi, c'est Buffy et Death Note.
Ouais, je pense que voilà, il y avait vraiment une opportunité, mais je trouve que c'est pas hyper bien écrit, surtout la fin de la saison 1. Après, du coup, j'ai pas regardé la saison 2. Mmh. Mais voilà.
Moi, j'ai vu que 2 ou 3 épisodes de la saison 1, et de tout ce qui a pu être produit en France par Netflix ou Amazon, je trouve que c'est ce qui est, je pense, peut-être le mieux réussi.
Franchement, ouais,
en série de fiction. Aussi. Je trouve ça assez fun, je trouve que la musique est bien. Je trouve que par exemple, si on compare à Emily in Paris, qui est pareil pop, pré-hip-hop, là, t'as ce truc. Ça fait un peu pub Winamax à certains moments, effectivement.
Ouais,
ouais.
Ça, donc tu vois une France un peu plus jeune, un peu plus chamarrée, bigarrée, etc. Mais voilà. Ouais. Après, j'ai pas vu suffisamment pour pouvoir dire. J'ai juste vu, j'avais un peu peur des trucs vaudou qu'un bois. J'ai fait,
ça marche plutôt bien.
Ça marche plutôt bien.
Okay. D'ailleurs, il y a Firmin Richard dedans qui parle créole. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de dialogues en créole et j'ai trouvé ça très bien. C'est une des tentatives les plus réussies, je trouve, d'intégrer des dialogues en créole dans une série française sans que ce soit vraiment totalement.
Ah oui, clairement, c'est pas une série qui aurait pu être sur TF1, donc ça, c'est cool.
Elle a un accent bizarre, Firmin Richard, quand elle parle créole. Alors, je sais pas si c'est moi, etc. Et puis, je suis pas le meilleur juge. Mais bref, moi, j'ai adoré la saison 1, malgré les faiblesses du truc. Il y a des faiblesses manifestes, comme tu disais, mais moi, j'ai kiffé quand même. Je trouve que c'est un bon divertissement. Question suivante. Alors, c'est une question un peu longue, je vais essayer d'aller vite. Hello, hello. Déjà, bravo et merci pour votre travail. Je vous suis depuis quelques mois. Je suis une jeune femme blanche. Et votre podcast, ainsi que d'autres comme Kif Taras, bisous à Kif Taras, m'aide à me déconstruire au quotidien. Alors sa question est la suivante, je vous le dis rapidement, hein, j'essaie de vous résumer. En gros, elle est blanche et c'est vrai que Bande de filles est souvent désignée comme un film problématique, mais elle, comme elle est blanche, ou c'est pas forcément parce qu'elle est blanche, mais voilà, elle voit pas le problème avec Bande de filles. Est-ce qu'on peut donner notre avis sur ce genre de film? Est-ce qu'on arriverait à répondre assez rapidement à cette question? Parce que j'ai l'impression que c'est une question très technique.
Non, moi je peux répondre assez rapidement.
Vas-y.
Je pense que un des seuls avantages de ce film, c'est d'avoir fait émerger Kharija Touré et d'autres actrices comme Assassila, tout ça, qui sont super. Ça, c'est très cool. Après, je pense que le souci avec Bande de filles, c'est que ça fait vraiment safari, en fait. C'est-à-dire que Céline Sciamma ne caste pas de personnages racisés dans ses autres films. Et là, c'était vraiment son film avec des Noirs. Elle l'a dit elle-même que c'était, ce qui l'a inspirée, c'était les filles dans le métro qu'elle voyait, qu'elle avait envie de faire un film sur ça. Et je pense aussi que ce qui pose problème, c'est qu'il y a tellement peu de représentations de jeunes filles comme ça dans le cinéma français que du coup ça devient l'unique et que toutes les faiblesses de ce film du coup rejaillissent en fait et ont tendance à stigmatiser une communauté. Et enfin, juste pour terminer, il y a vraiment aussi le côté on lui a dit mais pourquoi ces jeunes filles tu vois elles ont il y a peut-être pourquoi elles sont pas politisées, pourquoi elles se posent pas trop la question de savoir pourquoi, comment, c'est quoi leur place dans la société. Et elle l'a clairement dit, elle dit ah non, moi ça m'intéressait pas qu'elles soient politisées en fait. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est un regard très blanc en fait, c'est vraiment un white gazing sur qu'est-ce que c'est que ces personnages, qu'est-ce que c'est que ces filles noires qu'on voit dans le métro, qui est particulièrement dérangeant quand on sait le manque d'opportunités que les réalisateurs et les scénaristes noirs ont en France pour exprimer et dépeindre eux-mêmes leur propre culture et communauté, quoi.
Fun fact, moi je suis allé voir Bande de filles à l'époque au cinéma.
Pareil.
Honnêtement, moi à l'époque, et pourtant c'était bien avant le chip, tout ça, mais je n'avais pas trouvé plus choquant que ça. Au contraire, je trouvais ça cool de voir des meufs dans ce genre de milieu et qu'on ne voyait pas d'habitude. Et je l'ai vu, j'étais en date, je suis allé voir en date. La meuf était noire. Et en sortant du film, du coup, elle a pas du tout aimé le film. Moi, j'étais en mode non, c'était cool. Et on s'est embrouillé à cause de ça. Et on s'est plus jamais revu.
Ah, ça t'a flingué un date en plus.
Ouais, c'était pas très grave.
Oh, le...
Allez.
Portrait de la jeune fille en feu. Donc, du coup, c'est aussi Céline Sciamma.
Ouais.
Moi, j'avais pas aimé Bande de filles. Et du coup, quand j'ai vu la méga hype autour de Portrait de la jeune fille en feu, j'avais presque envie de le voir pour me moquer, pour dire du mal. En fait, c'est mortel. J'ai rien à dire de mal.
C'est trop bien. C'est super.
C'est trop bien.
On passe aux questions suivantes, c'est la dernière section, c'est les questions indiscrètes.
Po, 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 po.
Ah, j'aurais dû faire comme ça depuis le départ, putain. J'aurais dû prendre une fausse moustache, un costard et faire le host de Philippe. J'aurais dû faire Philippe Risoli. Philippe Risoli, excusez-moi. Alors, première question de celle-ci, je vais appeler comme ça, même si c'est pas du tout comme ça que ça se prononce, sûrement. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Si vous étiez un plat, lequel vous seriez? Est-ce que vous vous voyez habiter toute votre vie, excusez-moi, en France? Sinon, quel pays vous fait de l'œil? Et sinon, comment ça va? Alors, comment ça va? On y a déjà répondu.
Ouais, déjà.
Ça va. Si vous étiez un plat, lequel vous seriez?
Colombo de poulet.
Et toi?
Truc basique, mais bon.
Un truc, vas-y.
Bah, faut que je fasse un mélange du coup, donc aloco et pâte au saumon.
Ah ouais,
c'est immangeable. J'adore les deux. Hein,
Mélanie, tu es dégueulasse.
Aloco et pâte au saumon.
Tu me donnes mal au ventre, Mélanie.
C'est deux trucs que j'adore. Non, mais
tu mets dans des assiettes séparées, okay, mais voilà d'accord. Quoi.
Et tapas.
Parce que t'es métisse, du coup, tu as un mélange de saveurs. Moi je serais des dombrés crevettes parce que non, j'arrive pas, j'ai pas réussi à faire une métaphore filée à la con. Ouais, dombrés crevettes, pas parce que je suis un dombré crevette, mais parce que c'est mon plat préféré. Donc le jeu du portrait chinois est complètement niqué. Est-ce que vous voyez habiter toute votre vie en France? Si oui, quel pays? Est-ce que vous avez des rêves d'exil? Rapidement.
Ouais, de temps en temps, j'ai envie, mais en même temps, mon savoir est tellement localisé, difficilement exportable,
ouais,
que bon. Mais oui, 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 oui.
Ouais. Et toi?
Ah ouais, moi j'ai envie de me casser, ouais.
Enfin, t'as un pays en tête, je veux dire?
J'ai déjà envie de faire un tour du monde, mm-hmm, depuis assez longtemps, et je pense que c'est un truc que je vais essayer de concrétiser là, parce qu'on n'a pas le time. Et puis, en pays, je sais pas, moi j'avais...
Habité.
J'avais eu un coup de cœur pour l'Asie et pour Hong Kong, mais...
C'est pas le moment,
j'y suis allée avant, et maintenant...
It's going down.
Et voilà, mais sinon, effectivement, j'aimerais bien peut-être... En fait, j'ai un vrai souci avec l'idée d'aller habiter dans des pays du Sud, parce que je me dis, tu vois, je veux pas être un colon, quoi. Donc, mais c'est une vraie question.
Je peux comprendre. Moi, États-Unis, Japon, Antilles, évidemment, rentrer en Guada ou en Martinique, ça me ferait plaisir. Je considère la Martinique et la Guadeloupe comme un pays différent. Vous avez compris l'idée, voilà quoi. C'est pays en nous, c'est pas. Bref, on a compris. Question suivante de Jessica qui nous suit depuis très longtemps. Je connais ce hat, je connais cette photo de profil. Donc big up à Jessica.
Coucou Jessica.
C'est une question pour toi, Amel. C'est deux questions pour toi. Hello Chip, grande fan de votre équipe et plus particulièrement des projets de Mélanie. J'ai deux questions à lui poser. Pourquoi a-t-elle quitté le podcast Quad Meuf, c'était vraiment mieux avec elle. Et pourquoi la page Waya s'est-elle éteinte? Deux belles initiatives que j'aimais particulièrement et qui ont disparu sans laisser de traces, parce que Quad Meuf existe toujours, mais bon, c'est plus pareil. Merci et à la prochaine.
Alors, Quad Meuf, je suis partie pour plusieurs raisons. Je vais en citer deux. La première, c'est que c'était fin 2018 Et en fait, Quad Meuf et le Chip, c'est vraiment deux projets qui se sont lancés ensemble et tout. Donc, j'avais déjà pas mal de projets en cours. En plus du travail, j'étais dans une phase où je cherchais, je cherchais en fait à élargir ce que je faisais en termes de boulot et tout. Donc voilà. Et puis, je m'entendais plus très bien non plus avec ma co-animatrice de Quad Meuf. Et j'ai préféré en fait m'effacer en fait en disant, écoute, voilà, le projet, on l'a fait toutes les deux. Je préfère te le laisser et que t'en fasses ce que tu veux parce que je me reconnais plus nécessairement dedans. Au final, c'est ce qui s'est passé. Alors la newsletter s'est arrêtée. Le podcast a continué. Moi, j'ai fait une saison du podcast. Et puis voilà. Et puis après, je suis contente que ça existe toujours et que ça continue. Mais voilà.
Et Waya.
Ah oui, bien sûr.
Excuse-moi, je te voyais.
Waya, c'était un
pas les eye contact,
super projet aussi. Et là, pour le coup, Waya, je suis vraiment partie parce que j'avais plus le temps du tout. Parce que j'avais plein de trucs à gérer. À un moment, j'ai fait Waya, le Chip, Quad Meuf en même temps. Et là, c'était la folie. Là, c'était la bérésina. J'y arrivais plus. Et donc, à un moment, il a fallu cutter, quoi. Il a fallu faire des choix et tout. Je sais pas trop pourquoi ça a pas continué. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites une fois que je suis partie. Moi, j'étais surtout sur la partie éditoriale, l'interview des modèles et un peu la strat sur qu'est-ce qu'on voulait faire éditorialement. Mais je trouve que c'est toujours un super projet et je pense que Waya, pour le coup, il y a des chances que ça revienne sous une forme ou sous une autre parce qu'il y a vraiment besoin de ce type de représentation.
C'est vrai que c'était un projet cool, ça aurait pu être le Teen Vogue français, quoi. Ouais. Mais maintenant, c'est Mademoiselle le Teen Vogue français.
Voilà.
Question suivante de Spa Orxy. Je veux que Mélanie vous fasse visiter la Côte d'Ivoire. Eh ben, écoute.
Mais en vrai, je suis sûre que vous entendriez bien avec ma famille en Côte d'Ivoire.
Ah ouais.
Ils ont une vibe que vous aimeriez.
C'est certain. Moi, j'ai des liens avec la Côte d'Ivoire, je suis chaud. Hein.
Ouais. Mais en vrai, Abidjan, c'est trop bien. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à Abidjan, parce que l'autre fois, quand j'ai pris l'avion pour aller à Abidjan, il y avait une fille dans l'avion, elle m'a dit « Le Chip ». Et franchement, je suis sûre que ça pourrait vous plaire grave et tout.
Moi, ma mère a grandi en partie à Abidjan et aussi à Lomé, donc elle y est retournée il y a 2 ou 3 ans, alors qu'elle n'y avait pas été depuis les années 60. Ça a tellement changé, elle reconnaît plus, c'est une mégalopole,
c'est un truc de machin, etc.
Mais j'en ai toujours entendu parler plutôt en très positif.
Ouais. La bouffe, la musique, la culture, en fait, c'est un vrai carrefour d'influence et tout. Et les gens là-bas, ils ont pas le time, quoi. Ils sont là pour profiter de la vie et travailler et faire la fête, quoi.
RIP DJ Arafat.
Mes petits cousins, ils en pouvaient plus.
Question suivante de Axel. Qui danse le mieux?
Pourquoi vous me regardez?
Non, je vous ai regardé tous les deux.
Moi, je suis assez confiant en mes skills. Alors,
on peut faire une battle tout de suite si tu veux. On est filmé. Vas-y, battle assis.
Je suis assez à l'aise et c'était aussi encore un truc des soirées blanches et aussi l'épisode sur le zouk où en fait il y a un rapport super chelou à la danse en France. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'habite ici et c'est toujours les gens qui m'ont fait remarquer que c'était bizarre que je danse bien ou que j'ai envie de danser ou que je danse. Et j'avais envie de dire, non, c'est vous qui avez un problème, en fait. Les Blancs du Nord de la Loire.
Quand il y a de la musique, on danse.
Quand il y a de la musique, il faut que vous soyez en coma éthylique ou sous prod pour pouvoir un peu commencer à danser. Et je pense que ce que tu écoutes, en grandissant, t'incite plus ou moins à bouger tes hanches.
Pour beaucoup de personnes blanches, en fait, la danse, c'est un truc, c'est vraiment situationnel, en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'avais des potes blancs quand j'étais plus jeune. Quand on était en boîte, ils dansaient uniquement parce qu'il fallait, ils voulaient se rapprocher d'une meuf sur la piste et donc ils vont danser parce que c'est ce qu'on fait dans ces situations-là.
Non,
mais pas en mode forceur, mais en mode
comme les filles veulent danser, ils vont pas danser.
Genre,
mais pas par le plaisir.
Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport-là à la danse en France.
Et encore une fois, je veux pas essentialiser tout le monde. Il y a des
mais bien sûr, on aime tout le monde. On aime tout le monde. J'ai beaucoup d'amis blancs.
Voilà.
Question suivante de Ashon Wu. Quelles ambitions pro vos parents avaient-ils pour vous #BlackParents? Essayons d'être court, parce qu'il me reste pas mal de questions. Vas-y. Est-ce que vous avez...
Directeur de maison de retraite.
Directeur de maison de retraite.
C'est vrai, c'était leur ambition.
Mm-hmm. Non, c'est pas leur ambition, mais j'aurais dû faire ça et mon père l'a fait. Donc...
Et toi?
Alors moi, je sais que mes parents voulaient bien que je travaille bien à l'école, mais en fait, je viens d'un milieu plutôt populaire. Mm-hmm. Et du coup, il n'y avait pas nécessairement d'ambition. C'était juste, va à l'école et on verra après.
Ils ne te voyaient pas dans un métier en particulier, par exemple?
Non. Et d'accord. D'ailleurs, quand j'ai dit que je voulais faire du journalisme, c'était mais catastrophe, c'est trop compliqué, c'est bouché, il n'y a pas la place, on n'est pas à Paris, tu ne vas jamais y arriver et tout. Ils n'ont pas tort, hein, c'est vrai. Hein, écoute. mais voilà, et maintenant que j'ai réussi, il y a un peu ce côté... qui je pense est le cas de beaucoup de gens qui sont dans cette situation là
où de classe.
Ouais, où en fait t'es un peu genre tu parles de ton boulot et les gens te regardent comme ça et personne comprend et voilà.
Mais, started from the bottom.
Ouais.
Now we here. moi, mes parents, ils veulent que je sois enseignant.
C'est vrai?
Ah oui, enseignant. Ils sont à fond sur l'enseignement. Dès que je leur dis, ouais, journaliste, c'est difficile. Enseignant? Ouais, non, mais en ce moment, enseignant. leur truc,
j'ai commencé une thérapie. Enseignant?
Ouais. Ouais, non, mais j'avoue, si je t'avais eu en prof, j'essaye d'imaginer comment.
Je suis un prof assez cool, tu sais, je donne des cours, etc. Donc, je crois, je me débrouille bien là-dedans, j'aime bien faire ça. Mais c'est pas quelque chose que je me verrais faire à plein temps et dans l'éducation nationale, tu vois. Donc voilà, enseignant. Et quand j'étais plus jeune, ma mère, elle avait pas une idée précise du taf qu'elle voulait que je fasse, mais elle voulait que je fasse normal sup. Okay. Pour ma mère. Pour ma mère, en fait.
C'est la réussite.
Voilà, la réussite,
c'est la méga classe normal sup.
Est-ce que tu veux faire normal sup en maths, en physique, en... Je crois qu'il y a des lettres aussi, normal sup.
Normalien.
Rien, voilà, elle voulait juste, elle dit juste normal sup. Mon fils, il va faire normal sup. Voilà. Question suivante de Abdoulaye. La plus grande fierté et la plus grosse honte de votre vie, hashtag, excusez-moi pas, hashtag, emoji, rire aux larmes. Est-ce que vous avez des idées ou pas?
Là, comme ça, c'est chaud, hein.
Ouais, c'est ça, off the head, comme ça, moi, j'ai pas de
ouais,
des
histoires d'étudiants, je me vomis dessus, des trucs comme ça.
Quoi? Je m'attendais pas à ça.
Allez, moi, je vais raconter une honte qui n'est pas la plus grosse honte de ma vie, mais c'est juste pour meubler. Alors, une fois, quand j'étais au collège, je rentrais en métro chez moi, je suis dans la rame de métro, et là, il y a une odeur pestilentielle dans la rame qui commence à s'installer. Clairement, quelqu'un avait pété. Et moi, je sens l'odeur, évidemment, et je suis indisposé comme tout le monde. Et donc, il me reste une station, donc je me dis, ah non, c'est pas possible, je vais pas continuer comme ça. Donc, je descends du métro et je sprint jusqu'à au wagon de tête, ouais. Pour juste m'éloigner de l'odeur. Je suis pas allé au wagon d'à côté, sinon les gens allaient me voir dans le wagon d'à côté et se dire, c'est lui qui a pété. Ouais. Donc, du coup, je suis allé au wagon tout devant pour être tranquille. Le problème, c'est que le métro a pris du temps à partir et qu'il y a un mec qui est descendu, par contre, à la station et qui a eu le temps de marcher tranquillement. Pour prendre sa sortie et qui est passé devant mon wagon de tête et qui m'a vu et qui m'a reconnu et qui m'a regardé en mode
gros bâtard.
Vraiment en mode c'est lui qui est.
Ça va, c'est un mec. Ah,
c'est voilà, toi ouais, ça va.
Et c'était un mec noir d'ailleurs, voilà, c'était pour l'anecdote. T'as pas une fierté ou un truc? T'es pas obligé de répondre.
Non, j'ai pas. Là, comme ça, j'ai pas. Désolé.
Allez, je passe à la suivante. Brief de minuit, qui nous demande qui a la plus grande bouche?
François?
En taille?
Je sais pas si c'est en taille ou
non, je pense que c'est l'expression avoir une grande bouche.
Oui, ah, c'est ça. Oh, moi, je pense que j'ai une plus grande bouche dans les deux sens du terme.
C'est François Houlac.
Oui, oui, j'essaie de pousser ce podcast dans plus de vulgarité, plus de, je sais pas, on a un podcast PG-18, on devrait faire plus de trucs, on devrait être plus outrancier. Ouais, j'aimerais bien ça. Mais bon, vous êtes pas très chaud.
Plus ratchet.
C'est ça, plus ratchet. C'est ça, plus ratchet. Allez, une question de DaBaby. Non, DaDaBy.
Pas DaBaby.
T'imagines.
Non, c'est DaDaBy et non pas DaBaby,
le
rappeur. un retour en Guadeloupe est-il prévu? Pourquoi? Et si oui, dans combien de temps? Alors, ça doit s'adresser à moi,
oui,
puisque
moi,
je suis le Guadeloupéen dans la salle. Un retour en Guadeloupe. Alors, j'imagine qu'elle parle d'un retour définitif, genre rentrée, comme on dit chez nous, là-bas. C'est pas prévu dans un futur proche parce que pour l'instant ma vie est en France et que c'est plus, enfin en France hexagonale, mais que c'est juste plus simple pour moi d'être ici, etc. Maintenant, dans quelques décennies, si Dieu veut, ouais, j'aimerais bien vivre là-bas parce que c'est là où sont mes racines, c'est là où est ma famille, là où la Martinique, l'un ou l'autre. Mais par contre, non, j'ai pas prévu dans combien de temps, quoi que ce soit. Voilà. Alors c'est une question de Ebla et Wad. Est-ce que vous êtes amis dans la vie privée? Alors, oui. Moi, je déteste Kelly et Mélanie depuis très longtemps, je peux le dire. Non, mais vous êtes tous les deux invités à mon anniversaire. Ouais. Oui, bien sûr.
Mais oui, on se fréquente en dehors de l'émission, ouais.
Enfin, toi, on voit pas très souvent parce que...
Oui. Because notre dispo, mais...
mais en temps normal, ouais. En temps normal, oui. Question suivante de Estelle. Les moments les plus awkward dans le monde pro. Alors là, je fais une passe à Kevin, excuse-moi, parce que je crois qu'il avait un truc à dire.
J'étais tellement vénère. C'était il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait un énorme festival et le week-end, le lundi après-midi, on avait un enregistrement du chip. Donc je ne comptais pas bosser le lundi. Et genre quelques jours avant, je reçois un mail de demande de visite d'une américaine qui s'appelle Angela Davis. Et donc je fais
oh my god,
je sais pas si c'est vraiment l'Angela Davis de la femme la plus recherchée de ça, et donc je me suis dit c'est forcément Angela Davis. En plus j'ai une amie qui l'avait croisée récemment dans
qui
un
lui
truc
avait parlé.
Qui lui avait parlé, qui lui avait parlé, et donc je me suis dit oh putain c'est Angela Davis, je ne peux pas lui dire Angela, je vais entrer en gueule de bois, écoute je fais pas la visite. Donc évidemment j'ai dit oui, je me suis engagé, C'était pas Angela Davis. Enfin, si, c'était vraiment Angela Davis, mais pas celle que vous connaissez. Donc, du coup, c'était pas une visite.
C'était pas fou, quoi.
C'était pas fou comme niveau de conversation, on va dire ça comme ça.
Question suivante. Vous avez fait quoi pendant... Désolé, j'ai pas le pseudo pour cette question-là. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps sans publier l'épisode? Est-ce qu'on essaie d'être succinct?
Vas-y.
Allez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, je me suis remis à écrire, parce qu'en fait, je faisais du journalisme vidéo pendant les deux ans et demi qui ont précédé la pandémie. Et du coup, pendant la pandémie, ben, le chip s'est arrêté, etc. Et je me suis remis au journalisme écrit. Donc, j'ai écrit de chez moi et ça m'a permis de commencer des collaborations avec des médias avec qui j'avais pas pu bosser avant, comme Le Monde ou Yard. Donc je suis très content et c'est cool. Voilà. Et toi ?
J'ai eu un nouveau boulot en juillet 2020, donc vraiment courant année 2020, qui est celui de directrice des rédactions de mademoiselle.com. Et donc j'ai beaucoup travaillé, je continue énormément à travailler et j'ai pas fait grand chose d'autre. mais voilà. Et toi ?
Moi, ça a été une grosse période de doute au tout début, et puis ensuite j'ai continué à me muscler en fait le cerveau. Donc je prépare une nouvelle visite, un parcours totalement inédit, et j'ai lancé un podcast solo, donc le Paris Noir Podcast. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir faire un partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et puis j'ai aussi fait pas mal de visites à distance pour des grosses boîtes, des trucs comme ça. Donc même si j'ai pas eu vraiment cette chaleur humaine de contact, d'échange que j'aime tant, j'ai pas chômé, quoi.
T'as pas chômé, hein, t'as envoyé plein de side projects, des trucs comme ça.
Ouais, t'avais ton podcast cool. Et tout.
La dernière question, j'ai fermé l'ordi parce qu'en fait, il reste une seule question et je m'en souviens.
Et on a plus de temps.
C'est ça, c'est qui est-ce qui chip le mieux, c'est-à-dire, entre parenthèses, c'est ce que la personne a précisé le plus longuement dans l'équipe. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai la bouche.
On fait un concours.
Ah bah oui, on fait un contest. Bah oui, on fait un contest ou pas? Vas-y, donne-moi l'eau.
Mais moi, je chip quand c'est inattendu. Enfin, tu vois, il faut que ça vienne tout seul. C'est pas genre si je me concentre pour chipper, je vais foirer.
Elle commence à pétailler.
Par contre, quand je suis dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui me bouscule, là, je chip. Et je peux chipper longtemps, tu vois.
Le chip long, c'est un peu un truc. C'est plutôt un truc d'Africain, dans le sens où moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est qu'aux Antilles, on a
le chip long.
Le chip long. Genre, j'ai vu des chips qui font genre. Et ils finissent même pas avec la langue.
Il y a ça dans le truc d'Arte, le court-métrage d'une femme qui est, je crois, guadeloupéenne et béninoise, et qui fait un truc de 5-10 minutes sur le chip. Elle parle justement de chip long qui se termine avec une sorte de...
Mais tu sais que dans Maîtresse d'un homme marié aussi, il y a ça à un moment.
Okay.
Donc quand tu fais le chip long, plus à la fin, c'est vraiment le... C'est vraiment mode, qu'est-ce qui... Mais on fait pas de contest alors. Vous voulez pas faire un contest?
Vas-y, Mélanie, tu commences.
Pourquoi c'est moi qui commence? Je viens de dire que j'étais pas à l'aise.
Attends, 1, 2, 3...
J'ai compté une seconde.
Alors, il compte pas, frère.
Tu triches.
C'est nul.
Pourquoi?
Après, j'ai fait ce que j'ai pu, wesh. Un bruit de succion chelou. Mélanie, à toi.
Attends, faut que je me concentre. Moi, je vais foirer, je vais me prendre la honte. Voilà, c'est ça ma plus grosse honte, avoir fait le chip dans
le chip. Elle chip pas, elle.
Dans le chip.
C'est quoi ce délire? Ça ressemble plus à un bisou qu'à un chip, elle a dit.
Non. Je peux pas.
Bon, ben voilà, c'était le dernier round de questions. Encore une fois, merci beaucoup
merci à
tout le monde d'avoir posé toutes ces questions. Les personnes à qui on n'a pas pu répondre, comme je vous disais, on va répondre dans les commentaires, dans les DM, etc. On va vous répondre quand même, mais sur les réseaux, du coup. Et voilà, du coup, c'est le dernier épisode de la saison. Voilà, au début, on avait prévu d'autres enregistrements. Et puis finalement, voilà, on va retourner au labo, on va retourner au tableau, back to the lab. Et on va réfléchir un peu à une formule différente pour le chip, parce qu'on a envie de plus investir ce créneau de la vidéo. Normalement, à la rentrée, il y a des choses qui arrivent, il y a du sale qui arrive. On va pas vous abandonner, comme on a fait en 2020, promis. On reste là, on machin. Voilà, en attendant, on retourne à la salle de muscu et on va faire des pompes et des tractions sur du gras dur.
Et si vous savez pas quoi écouter cet été, y a le Paris Noir Podcast qui va continuer. J'ai des nouveaux entretiens qui arrivent, que j'ai enregistrés fin 2020, qui sont chamés, que j'ai pas encore montés.
On va te faire payer le post-roll, Kevin.
Si vous êtes chaud... Si vous êtes en manque de chip,
on va quand même continuer, du coup, cette fois-ci, on va pas merder, on va continuer à animer les réseaux, J'aimerais bien qu'on réfléchisse. Après là, c'est moi qui parle seulement. J'aimerais bien qu'on réfléchisse à faire un petit live, ou un petit event dans la vraie vie avec tout le monde. Ce serait cool. On tournerait un coup. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc c'était le dernier épisode du chip. Enfin, avant la rentrée. Voilà. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux, sur Twitter et Instagram @lechippodcast. Si vous nous croisez sur Apple Podcast, faites-nous salam et mettez-nous 5 étoiles.
Oui.
Parce qu'en dessous de 5 étoiles, votre ordinateur ou votre téléphone risque de prendre feu. C'est la vérité.
Abonnez-vous si vous nous regardez sur YouTube. Il y a trop de gens qui regardent et qui ne sont pas encore
abonnés. Vous faites quoi là ? La cloche et tout.
Activez la cloche, activez la cloche. Cet épisode a été réalisé par Adrien et Aldric, à qui on fait des bisous.
Des gros bisous.
Studio Majorel, évidemment, est derrière nous. They got our back. Et on revient très vite. Des bisous, salut.
Bye, Banks.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.